Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu de l'actualité de l'industrie du jeu vidéo. On parle de jeux, on parle de PC, on parle de matos, on parle de consoles, on parle de prévisions, on parle d'annonces, on parle de news et on parle de jeux. Je suis Patrick Béja et dans cette émission qui est désormais hebdomadaire, j'ai failli dire désormais mensuelle, non, hebdomadaire, toutes les semaines on reçoit les plus intéressant de tous les journalistes, de tous les membres de la presse, de tous les membres de la sphère d'influence et également de l'industrie elle-même, parce que vous le savez, moi j'ai tendance à beaucoup trop parler et donc il faut des gens qui sont capables de m'interrompre, et d'autant plus qu'on va être maintenant là toutes les semaines, vous avez bien compris, hein, on est là toutes les semaines maintenant, à partir de maintenant, grand changement, eh bien il faut des gens qui sont capables de m'interrompre, et qui d'autre pourrait mieux le faire que mon compagnon de longue date sur le rendez-vous jeu, Jika Loret.
Pardon, je t'ai insulté. Non, je t'ai dit. Tu me demandes de t'interrompre, donc je suis pas comme ça d'habitude. Écoute, ça va. Je suis content parce que ça fait bien longtemps, parce que c'était les vacances. C'est officiellement la reprise, du coup, pour moi. C'est officiellement la reprise pour moi et ça m'avait un petit peu manqué, je dois te le dire.
Oh, bah c'est cool. Ça fait plaisir que tu me dises ça. Et du coup, oui, je suis très content que tu sois là avec moi. Et désormais, ça sera tous les... Bon, là, c'est un petit peu différent, mais normalement, ça sera tous les premiers jeudi du mois que tu seras là dans l'émission, et on aura donc chaque semaine du mois une personne différente. On a Jika bien sûr, Eska bien sûr, et puis Dany qui me rejoint après Azeroth.fr il y a 10 ans au moins. Dany qui va me rejoindre pour commenter l'actualité, et puis on aura quelqu'un en plus à terme pour le quatrième jeudi du mois. Mais en tout cas là, on va avoir beaucoup de sujets qu'on va évoquer. J'ai oublié de le dire, mais la série S qui a été annoncée, le Nintendo Direct avec les 35 ans de Mario, les RTX 3000, plein d'autres choses, Marvel's Avengers, dont je vais vous parler pendant 45 minutes minimum, et puis surtout, toute l'actu, comme je le disais. Et pour nous aider à commenter tout ça, on a une troisième personne, la chaise était libre, donc on a proposé à Julie de nous rejoindre. Comment ça va, Julie ?
Bah écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation.
Très heureux de te recevoir. J'ai fait un impair, j'ai oublié de te demander la prononciation de ton nom de famille, parce que c'est Jeannot ou Jeannot ?
Jeannot.
Jeannot, on préparait l'émission avec Fanny, je disais, moi je suis sûr que c'est Jeannot, elle me disait, non, ça doit être Jeannot. Bon, Jeannot.
Non, c'est Jeannot.
Donc Julie, toi, t'es chez Riot, t'es brand manager pour League of Legends, Teamfight Tactics et Legends of Runeterra, donc tu es vraiment au sein de l'industrie, quoi.
Exactement, du coup, sur la partie communication et publishing pour le marché français.
Super, donc tu vas passer l'émission à nous dire que les jeux Riot, c'est les meilleurs jeux de l'histoire, etc. Non, je suis content.
Je retiendrai.
Je suis content que tu nous rejoignes. On reçoit de temps en temps, enfin régulièrement, j'essaye, des membres de l'industrie qui sont du passé du côté professionnel, parce que c'est toujours intéressant d'avoir leur regard sur l'actu. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'émission, vous le savez, c'est couvrir toute l'actu. Et bon sang, on a bien choisi le moment pour passer hebdo, parce que ça... s'accélère, là tout commence à tomber et on a un programme hyper chargé pour aujourd'hui. Avant de se lancer dans le programme, je vais quand même remercier les gens qui soutiennent financièrement l'émission. Aujourd'hui spécifiquement Alex 13, Reinhardt, Valentin Keraro, Gauthier Dubuis, Nidelette, Christian Peters, Leroy Roux, Ludovic Robert et Kamioku. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux et j'en redirai un petit mot dans un instant. Mais là, on va peut-être commencer par la série S. Je ne sais pas, Julie ou Jika, si vous avez une préférence, mais moi, je me dis que la série S, c'est un bon point de départ, parce qu'on a eu une avalanche d'infos due à des leaks.
Surtout, c'est tout frais, ça date d'hier.
Ouais, exactement. Alors, je vais faire comme toujours un petit résumé de tout ce qui s'est passé et puis on commente juste après. La série S, c'est la Xbox qui avait été dans toutes les rumeurs depuis des semaines, voire des mois. C'est la version un petit peu moins puissante de la nouvelle génération de consoles de chez Microsoft, à savoir la plus puissante, c'est la série X et la série S serait un petit peu moins puissante. Et suite à des rumeurs et des leaks, ils ont, semble-t-il, été obligés de précipiter un petit peu l'annonce, mais du coup, on a eu toutes les informations sur les deux consoles. Alors, on a avant tout les prix, 499 € pour la série X et 299 € pour la série S. Date de sortie pour les deux, le 10 novembre. Les réservations commencent le 22 septembre. Et puis, surtout, le plus intéressant de tout ça, on va laisser de côté un tout petit peu la série X, dont on a déjà abondamment parlé. Mais pour la série S, le prix, d'une part, est surprenant parce qu'on l'attendait, je pense que les prévisions étaient, 349, 399. 19 peut-être, mais certainement pas 300 €. Peu de gens avaient imaginé qu'elle serait aussi bon marché. Et puis, l'autre aspect intéressant, c'est que on se disait dans les estimations optimistes que ça ferait tout ce que fait la série X, sauf que au lieu de viser la 4K, ça viserait la HD, donc en 1080, et peut-être en 30 images secondes, ça c'était mon estimation, peut-être en 30 images secondes plutôt qu'en 60. Et bien finalement, elle fait, a priori, d'après les informations de Microsoft, il faudra voir comment ça tourne réellement, mais elle fait tout ce que fait la série X effectivement, c'est-à-dire ray tracing, SSD en disque dur hyper rapide, etc., etc. Et elle vise le 1440p en 60 images secondes, avec un upscaling en 4K si vous avez une télé 4K, un support des 120 images secondes maximum si vous avez une télé qui supporte ça. Bon, tous les jeux ne le feront pas, comme sur la série X, mais c'est vraiment encore plus que du HD 30, c'est du 1440p en 60 images secondes. Et en plus, le prix complètement fou. Et en plus de ça, la console qui... le Game Pass, qui est le truc qui est l'argument de vente de Microsoft, va inclure à partir de cet hiver l'abonnement à EA Play, qui est une version du Game Pass de chez EA qui inclut les jeux qui sont en back catalogue, on va dire. Alors, c'est beaucoup de jeux sport, mais il y a les jeux Star Wars, il y a des jeux comme Titanfall, il y a plein de jeux sympas qui sont ajoutés au Game Pass PC et au Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. Donc, vous avez juste accès à plein de jeux en plus sans frais supplémentaires. Sur console, il faut avoir l'Ultimate pour que ça soit inclus. Encore un autre truc en plus, c'est que le Xbox All Access va arriver en France également. C'est une sorte de paiement échelonné, un petit peu comme un téléphone. On paye 25 € par mois dans le cas d'une Xbox Series S ou 35 € par mois dans le cas d'une Xbox Series X. Et on a accès à tous les jeux du Game Pass pendant 2 ans et la console qui vient avec, bien sûr. Donc, c'est une sorte d'achat à crédit. Le petit bémol qui est important quand même, c'est que la série S, pour son prix réduit, n'a pas le lecteur de médias optiques, donc n'a pas de lecteur de CD ou de DVD ou de Blu-ray, on va dire ça comme ça, parce qu'on est en 2020 quand même. Donc, pas de lecteur de Blu-ray, c'est uniquement numérique, et donc on peut imaginer que Microsoft se refait un petit peu parce qu'ils ont les commissions sur les achats en ligne, et on ne peut pas vraiment acheter de... on ne peut pas du tout acheter de médias physiques sur la Xbox Series S. Donc, si on veut acheter des médias physiques, il faudra des disques, il faudra une Xbox Series X. Ça fait beaucoup d'infos. Moi, j'ai été estomaqué par le prix. JK, je ne sais pas si toi, ça t'a autant surpris, mais moi, j'étais vraiment, vraiment surpris.
Ouais, c'est vrai que c'est un prix intéressant et d'une manière générale, que ce soit la série X, c'est pas le sujet, mais je trouve que la série X c'est un prix assez correct aussi. La série S, effectivement, il rogne pas mal sur pas mal de points qui sont plus ou moins importants au niveau spec, au niveau caractéristiques techniques, notamment par exemple un point qui fait baisser le prix forcément, c'est le stockage, puisqu'on est à 512 de SSD et sans lecteur optique. Pour moi, ça peut quand même coincer assez rapidement. En fait, c'est une preuve aussi que c'est vraiment une console qui est destinée aux joueurs plus occasionnels. Parce que clairement, 512 Go de stockage aujourd'hui sur des jeux type AAA qui prennent souvent plus 100 Go, ça peut se remplir très très vite. Mais sinon, non, c'est un très bon prix et surtout le rapport, on va dire, performance-prix, il a l'air d'être là. Après, il faudra voir évidemment le enfin concrètement
les tests de la console elle-même, oui, si ça tient la route
de la console. Mais c'est vrai que le fait de viser le 1440p donc qui est aujourd'hui, je trouve, une définition qui est tout à fait honorable pour jouer, parce que voilà, jouer en 4K c'est pas forcément le plus important, du moment qu'on a quelque chose de fluide. Sur PC par exemple, c'est vrai que c'est devenu la norme, le 1440p plus que le 4K sur un moniteur, et on privilégie plutôt le 1440p à 60 fps et plus. Donc c'est pas forcément déconnant. Donc voilà. Et puis derrière, il y a un modèle économique très très intéressant. Enfin, on y reviendra, j'imagine, après, tout ce qui est Xbox Game Pass Ultimate et tout Xbox All Access, etc. quoi.
Bah justement, au niveau de ce à quoi on va pouvoir jouer sur cette console, c'est peut-être le point qui est un tout petit peu en retrait, parce qu'au moment de la sortie, il y aura Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2. D'ailleurs, Assassin's Creed a avancé sa date de sortie, c'était censé être le 13. Maintenant, il s'éloigne un tout petit peu de Cyberpunk de quelques jours, et il colle avec la date de sortie de la console, ce qui est évidemment un bon achat, mais il sera optimisé pour la console. Destiny 2, qui est inclus dans Destiny 2 Beyond Light, qui est inclus dans le Game Pass, évidemment c'est pas le cas de Assassin's Creed Valhalla, mais Destiny 2 Beyond Light sort au moment de la sortie de la console. Dirt 5, Gears Tactics, Tetris Effect Connected, Watch Dogs Legion, donc Ubisoft en force, et Yakuza Like a Dragon. Entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, mais la conférence Ubisoft Forward aura lieu ce soir, la prochaine, au moment où on enregistre. Donc, on n'en parle pas encore, mais on aura de quoi la semaine prochaine. Donc, ça fait un catalogue qui n'est pas énorme. Il y a Call of Duty, Black Ops, Cold War, il faut le dire d'une seule traite, qui arrive le 13 novembre, donc 3 jours après la sortie de la console. Et Cyberpunk 2077, qui arrive le 19, lui, ne sera pas optimisé pour les consoles prochaine génération tout de suite, mais il sera quand même accessible en rétrocompatibilité. Il y a plein d'autres jeux accessibles en rétrocompatibilité, évidemment. Et comme tu le disais, tous les jeux du Game Pass, ça fait quand même de quoi faire. Comme on le dit depuis longtemps, c'est la stratégie de Microsoft qui est complètement différente des stratégies des deux autres constructeurs, de Sony qui se concentre sur les exclusivités et de Nintendo qui fait du Nintendo. Microsoft, c'est le Game Pass, le Game Pass, le Game Pass. Et je peux imaginer que 25€ la console et le Game Pass pour l'achat de Noël... Enfin, 25€ par mois, hein, on s'entend, mais c'est une proposition qui a vraiment, vraiment sa force, quoi. Ça, imagine avec Halo, ça aurait tout cassé, surtout aux US, mais aujourd'hui, même sans, c'est très correct.
En fait, petit à petit, ils ont réussi à construire un écosystème et un modèle économique qui, aujourd'hui, vraiment prend tout son sens, quoi. C'est-à-dire la console, le catalogue qui est vraiment extrêmement intéressant, le cloud gaming, même si c'est pas encore démocratisé, mais de toute façon c'est inclus dedans, le jour où ce sera
on a la version ultimate, hein. L'abonnement entre parenthèses, oui. c'est la version ultimate qui vient avec, donc ça veut dire tous les jeux sur PC, oui, et console, et le EA Play, donc et le cloud Play, et le X Cloud,
donc vraiment pour beaucoup de joueurs, en fait, pour beaucoup de personnes, une fois que tu as dépensé tes 25€ par mois, tu n'as plus besoin de dépenser un centime en jeu vidéo pour ce reste du mois, quoi, parce que tu as absolument tout. Enfin, tu n'as pas tout, non, c'est pas vrai.
Bah, tu n'as pas les derniers jeux qui sont sortis d'un autre éditeur que Microsoft, c'est sûr, ouais, mais tu as de quoi t'occuper.
Tu as suffisamment de nouveautés, voilà, tu as de quoi t'occuper. Et effectivement, je le redis, c'est peut-être pour ça aussi que c'est une console, c'est un modèle qui est destiné peut-être à des joueurs plus occasionnels, qui n'ont pas besoin d'acheter Day One Cyberpunk 2077, tu vois, qui vont l'acheter tard ou qui soit dans le Game Pass, justement. C'est une autre façon de consommer, en fait, finalement, de consommer le jeu vidéo, quoi. C'est extrêmement intéressant.
Sur le stockage, tu disais effectivement 512Go plutôt qu'un Tera, c'est un petit peu limité peut-être par rapport à la manière dont les jeux sont conçus aujourd'hui. Disent la plupart des développeurs, c'est que, étant donné qu'on a des temps d'accès beaucoup plus rapides, on peut réduire la taille des installations de jeux parce qu'on n'a pas besoin de répéter des assets sur le disque dur pour qu'ils soient accessibles plus vite. Alors on verra si ça sera compensé par l'augmentation de la taille des assets, justement. Mais il est possible que les jeux de génération actuelle soit un petit peu plus petit, et quand on voit que Call of Duty Warzone, c'est genre, je sais pas, 100-120Go, ça bouffe.
C'est 200Go, c'est 200Go, maintenant, on va faire sur son PC, là, fou, moi. Ouais. Moi, là, ça occupe 200Go, donc c'est monstrueux. Après, c'est une exception, on va dire. Mais oui, effectivement, et c'est vrai que ça c'est marrant, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment pour un article, et j'ai interviewé des développeurs. Il y a vraiment deux sons de cloche. T'as ceux qui disent, effectivement, que les temps de chargement accélérés vont permettre de réduire les assets. D'autres qui disent que, de toute façon, avec l'avènement des textures en 4K, des nouveaux moteurs, etc., les assets vont être de plus en plus volumineux dans tous les cas. Donc, bon, c'est difficile de savoir où ça va aller, quoi.
Ça risque d'être... On risque d'avoir une petite période de flottement quand les jeux ne seront pas encore avec toutes les assets 4K. Ça va réduire un petit peu et puis après, ça va regonfler. Une autre chose à mentionner à laquelle me faisaient penser les amis du Discord. On a un Discord sur lequel on peut venir discuter. Vous avez le lien sur notepatrick.com hein, si ça vous intéresse. Mais il y a une partie publique très sympa où on peut parler du dernier épisode. Il disait, je crois que c'était Johan, qu'il faisait remarquer que si on veut acheter les jeux en physique, on peut souvent les trouver à 10 voire 20 euros moins cher, ce qui fait que si on achète ces jeux en physique, ça peut en 20 jeux, voire en 10 jeux, et voire moins si on les revend quand on les a finis, ça peut compenser la différence entre la Xbox Series S et la Xbox Series X. Et même si vous n'achetez pas tous vos jeux en physique, 10 jeux plus tard, vous avez rentabilisé... 10 jeux physiques plus tard, vous pouvez avoir rentabilisé la différence de prix entre les deux. Donc c'est un truc à garder à l'esprit aussi. Et dernière chose que j'aimerais faire remarquer, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah mais moi j'ai pas la fibre, moi j'ai pas le câble, machin ». Je suis sûr qu'il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup plus simple d'avoir d'avoir des jeux en disque, évidemment, et surtout pour les jeux solo. Mais dès qu'on commence à passer dans l'univers du multi, et même quand on commence à avoir des updates, on le disait, Call of Duty, ces updates qui font plusieurs dizaines de gigas, elles ne viennent pas sur un disque qu'on vous envoie par la poste. Hein. Donc c'est pour une grosse partie des joueurs, une grosse partie des jeux, on a de toute façon besoin de télécharger des updates et des gros volumes de jeux. Donc ça, je pense que évidemment que ça concerne certains, cette histoire de connexion, mais c'est une partie qui est on va dire conscrite aujourd'hui de la population des joueurs, ou en tout cas bon, si c'est votre cas, évidemment il faut banquer et prendre une Xbox Series X si ça vous importe beaucoup, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est tout à fait possible de ne pas avoir de média physique.
Ouais, oui, complètement. Et il faut aussi rappeler que il va y avoir un accessoire donc fabriqué par Seagate, qui est une sorte de carte mémoire en fait, que tu pourras insérer. Donc, ce sera aussi bien dispo sur la série S que sur la série X. Ce sera une carte mémoire de 1 Tera. Enfin, ce sera en gros un SSD externe. On va pas se.
Ouais.
Mais qui a les mêmes caractéristiques que le SSD interne. Donc, normalement, tu perds pas en performance. Par contre, ce truc-là, a priori, est très cher. Je sais pas si les prix français sont affichés, mais j'ai vu passer des trucs dans $300 le truc, quoi. Alors, on parle d'un SSD externe d'un Tera, donc c'est avec une technologie récente. Donc, c'est assez logique que ce soit cher. Mais tu vois, par exemple, si tu dois rajouter $300, bon, sur ta console qui coûte déjà $300.
Oui. Faut voir. C'est sûr. Effectivement, vaut mieux désinstaller, réinstaller. Mais tu vois, le jour, si tu as une bonne connexion et tu prends une série S qui n'a pas de média physique et que tu as une bonne connexion, le jour où il y a le cloud qui fonctionne, comme je le dis là aussi depuis longtemps, les jeux que tu veux juste tester, tu n'as pas besoin d'installer, désinstaller, machin. Tu le testes en cloud 10 minutes, une demi-heure, une heure. Et puis, si ça te plaît, éventuellement, tu en installes certains. Mais les jeux EA seront eux aussi, pour une partie, disponibles en cloud gaming. Franchement, cette inclusion de EA, moi, c'était la deuxième énorme surprise après le prix de la série S. Ça ajoute encore de la valeur à ces Game Pass Ultimate, et il y a plein de jeux qui sont vraiment sympas, ne serait-ce qu'à tester, et en plus ça te donne accès aux jeux récents, pas tous mais une bonne partie des jeux qui viennent de sortir. Tu peux y jouer 10 heures avant de décider si tu veux l'acheter ou pas. Donc t'as le back catalogue, mais t'as quand même 10 heures de test sur les jeux récents qui peuvent te permettre de te faire
une idée. Sur les jeux récents, ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, ouais.
Moi, je trouve ça fou. Julie, toi, tu nous disais que tu es plutôt team PlayStation. Mais bon, j'imagine que toi, tu es PlayStation et un petit peu PC avec Riot. Donc, la Xbox, ça tombe dans le trou du truc où toi, tu n'en as peut-être pas vraiment besoin. La Xbox Series S, ce n'est pas forcément un produit pour toi, j'imagine.
C'est sûr, mais après, je trouve ça assez intéressant quand même, parce que moi, j'avais une crainte il y a quelques années, c'était que le gaming commence à devenir un peu inaccessible avec l'augmentation des prix des jeux, les consoles qui sont toujours plus puissantes et toujours plus chères aussi. Et là, le fait qu'on voit qu'il y a quand même un intérêt justement de créer une console qui est un peu moins chère, ça va la rendre plus accessible à vachement plus de personnes. Pareil pour les passes, en fait, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser 80 balles toujours dans des jeux, le fait d'avoir un abonnement, ça peut un peu pallier à ça. Donc, je trouve ça vraiment bien pour le gaming en général, qu'il y ait ces opportunités-là.
Ouais, je trouve aussi, c'est sûr que les gens comme nous vont dire « Ah ouais, mais t'as pas accès au dernier jeu, machin, effectivement, Assassin's Creed, Cyberpunk, ils seront pas dedans. » Ok, mais dans ce cas-là, c'est pas pour ça qu'on va prendre le pass, mais par contre, il y a plein de gens qui vont pouvoir apprécier énormément de jeux et peut-être le prendre pour leur FIFA ou leur ce que c'est. Et puis, jouer à d'autres jeux, avoir accès à plein de jeux, c'est... Enfin, bon, je crois que la valeur du Game Pass est plus à démontrer, clairement. Pour moi, c'est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo. Après, ça ne veut pas dire que ça donne accès à tout, mais c'est un deal incroyable, quoi.
C'est, en fait, faut se dire qu'il y a beaucoup de types de joueurs différents et qu'on n'est pas tous des joueurs ultra hardcore qui ont absolument envie d'acheter Day One tous les jeux qu'on adore. Il y en a qui jouent juste de temps en temps et ça reste des joueurs quand même et justement des potentiels acheteurs de la Xbox. Et du coup, pour eux, c'est vraiment un bon deal.
Ouais. Moi, j'avoue que ça m'a fait repenser. Je me disais, je ne vais pas prendre de Xbox et je ne pense toujours pas que je vais en prendre tout de suite. Mais le deal est quand même intéressant, quoi. Bon, il y a un autre deal intéressant avec un acteur qui fait les choses un petit peu différemment, c'est Nintendo, qui, eux, alors pour le coup, ils sont carrément dans une autre galaxie de communication. Je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, d'ailleurs, Julie, mais ils ont même plus besoin d'annoncer qu'ils vont faire un direct ou un live ou quelque chose. C'est juste, pof, on balance la vidéo sur YouTube et la terre entière reprend l'info et est excitée de l'info. Enfin, c'est... Eux, ils ont été les pionniers du direct, avec le Nintendo Direct il y a déjà de nombreuses années. Mais là, ils sont carrément les pionniers de rien à foutre, on annonce, et tout le monde a tellement les yeux rivés sur la Switch. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont annoncé peut-être, ouais, sur ce point, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est presque du jamais vu. Une grosse société comme ça qui annonce des projets. Alors, ce n'est pas leur plus gros projet, mais juste, pof, sans prévenir, ils balancent ça, et tout le monde se jette dessus, quoi.
Bah c'est incroyable et ça montre la puissance de Nintendo en fait. C'est que c'est une entreprise qui est tellement réputée, tellement connue, tellement. Enfin, ça fait longtemps.
Appréciée aussi.
Appréciée que bah, forcément, dès qu'il y a une nouveauté qui sort, elle est relayée d'une manière tellement rapide qu'en effet, ils n'ont même pas besoin d'annoncer qu'ils vont faire un direct parce que de toute façon, à partir de la seconde où ça va commencer. Bah, le bouche à oreille va aller tellement vite que tout le monde sera là au bout de quelques minutes, quoi.
Ouais. Moi, ayant travaillé aussi au département communication chez Blizzard, comme le savent les auditeurs, pendant quelques années, il y a quelques années de ça, je sais à quel point ça se travaille. Et évidemment que le plan de com de Nintendo est travaillé, mais je veux dire, normalement, tu commences, tu fais des trucs avec les influenceurs ou tu annonces que tu vas faire l'annonce ou tu vois, tu génères un petit peu. J'imagine que, je sais pas comment ça fonctionne chez Riot, mais quand vous avez un gros truc à annoncer, vous préparez le terrain, quoi. On n'imagine pas faire comme Nintendo.
Bon, après, nous, pour le coup, on n'avait pas préparé le terrain non plus quand on a annoncé tous nos, toutes nos nouvelles actualités. Donc,
c'est Riot, ok.
On a annoncé un petit live comme ça pour fêter les 10 ans de Ligue, et puis finalement, ça s'est transformé en conférence.
Oui, mais tu préviens que tu vas avoir un truc. Tu vois, ce qui est incroyable avec Nintendo, c'est que tu préviens même pas. Tu lances le truc sur YouTube. Enfin bon, je sais pas, moi, ça me...
Je pense que c'est aussi une stratégie de leur part qui est travaillée, ouais. D'ailleurs, de fonctionner comme ça, parce que la preuve, là, on en parle. Et c'est un peu aussi un moyen pour eux de montrer qui ils sont, quoi. C'est-à-dire, c'est Nintendo, quoi.
C'est les boss du game. C'est un peu comme Beyoncé qui a juste mis son album à disposition sans annoncer rien nulle part. Voilà. Bon, là, c'est pas les jeux. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? C'est le fameux événement des 35 ans de Mario, dont on avait entendu parler depuis un bon moment. Il y avait eu de nombreuses rumeurs et elles se sont confirmées. Il y a plein de choses, mais les deux essentielles, c'est la compilation avec les Mario 3D. C'est le Super Mario All-Stars 3D qui reprend le Mario All-Stars des 2D, sauf que là, petit bémol, les jeux en question ne sont pas du tout améliorés. C'est juste un passage à la HD et un passage au 16/9. Les jeux en question, c'est Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, qui seront vendus dans un bundle, un jeu, à 60 ou 70€, enfin le prix classique des jeux Switch. Le truc, c'est qu'il sera disponible pendant 6 mois seulement et après, il disparaît. Et là encore, c'est Nintendo qui fait le boss et qui dit, et voilà, même si vous n'êtes pas sûr de le vouloir, il va falloir le prendre parce qu'après, vous ne pourrez plus l'acheter ni en physique ni en numérique. Alors peut-être qu'ils les vendront en version améliorée dans 5 ans pour les 40 ans de Mario, pour qu'on les rachète encore une fois, mais ils ont une... je sais pas, c'est le genre de choses qui, si un autre éditeur le faisait, l'Internet serait en feu. Pour être honnête, il y a quand même eu beaucoup de critiques, c'est pas que les gens sont contents de cette stratégie, mais c'est marrant, chez Nintendo, c'est... Oh, allez, ça va, c'est Nintendo, on aime bien Mario. Moi, j'adore Mario, hein, mais bon, ça me fait un peu tiquer quand même cet amour un petit peu, comment dire, inconditionnel que vous, les internautes à Nintendo. Ça me fait tiquer, mais on va dire, je suis quand même assez bienveillant parce que ça fait quand même plaisir d'avoir cet excès dans le positif plutôt que dans le négatif, comme c'est souvent le cas. Mais bon, c'est pas la seule chose qu'ils ont annoncé. Ils ont aussi annoncé le fameux Super Mario 3D World, dont je vante les mérites, la version Wii U, qui sortira début de l'année prochaine avec des niveaux en plus. On sait pas trop bien ce que ça sera. Ça sera le Bowser's Fury, qui est une sorte d'add-on, visiblement, et dont j'ai très très hâte pour pouvoir le refaire enfin. Ma Wii U, je l'ai presque branché pour jouer à Mario 3D World, tellement il est bien. Il y a aussi un Battle Royale Super Mario qui est un petit peu inspiré d'un jeu qui avait été développé par un indépendant en pirate, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est 35 Mario entre et un seul ressort. C'est un jeu qui va être disponible bientôt, je crois, dans quelques semaines. Je ne me souviens plus de la date exactement. C'est le 1er octobre, voilà, qui sera disponible. On a aussi, on a quoi d'autre ? On a plein de petits événements. On a le Game & Watch spécial 35e anniversaire. Game & Watch, bon, si vous ne savez pas ce que c'est que vous êtes un petit peu trop jeune. Moi, j'en avais à l'époque. Le Mario Kart Live, qui est un kart jouet qu'on met dans son salon, si on a un salon de 70 mètres carrés, et on a la Switch qui est connectée à la petite voiture, et on va pouvoir jouer à Mario Kart en physique dans son salon, ou dans sa chambre, ou là où on veut, avec les choses qui s'affichent en réalité augmentée sur l'écran de la Switch. Là, ça va être un truc marrant pour les enfants, je pense. C'est Mario Kart Live Home Circuit. Il y a des Amiibo 4 Mario et 4 Peach qui arrivent l'année prochaine. Il y a un événement dans Animal Crossing. Enfin bon, bref, du côté de Mario, c'est la fête de partout. JK, tu vas te jeter sur tout ça ?
C'est alors, je vais avouer un truc là. Je ne parle pas en direct parce que c'est enregistré, mais j'ai précommandé le Game & Watch.
Voilà. Tu sais quoi, j'ai failli le faire et je me demande si je vais pas le faire parce que franchement,
ouais, parce que je me dis bon, de toute façon c'est débité à la commande, au pire je peux l'annuler, tu vois. Je me dis oh comme ouais. Ça, parce que en fait l'objet il est tellement chouette, enfin tu vois, mais évidemment pour moi pareil comme toi, j'en ai eu et puis l'objet est mignon. Puis Mario, enfin voilà, c'est
ah merde, il est pas disponible. Débile. Je suis allé sur Amazon pendant que tu parlais et j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible.
Bah, ça veut dire que, parce que moi je l'ai préco sur Amazon, donc
et merde, je me suis fait avoir. Bon, ok.
Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc ça évidemment ça me parle, et là où je trouve que c'est plutôt malin, c'est que j'ai l'impression qu'il s'adresse un peu à toutes les générations avec toute cette célébration de 35 ans. Le Mario Kart Live, même si moi je pense que concrètement ça va, enfin l'idée va être sympathique, mais ça va être comme le Nintendo Labo, tu vas y jouer une heure, ouais. Tu vas t'amuser avec, mais et puis il faut voir la précision parce que c'est quand même des caméras externes. Je sais pas si ça va être vraiment jouable et viable en fait pour de vraies parties, mais bon, disons que tu t'adresses plus aux gosses parce que ça c'est des jouets. Le évidemment pour les gens plus âgés, donc le Game & Watch et les rééditions de Mario, je pense que moi le Mario pour le coup, le Mario Galaxy, le Mario Sunshine, je serais très content de les faire. Mario 64, je l'ai pas fait et je me dis que c'est peut-être l'occasion de découvrir en 2020, il n'est jamais trop tard. Et donc voilà, donc ouais, c'est pas mal. Après, alors ici, et Mario 3D World, pareil, je suis plutôt content parce que pareil, je l'ai pas fait à l'époque. Évidemment, on aurait peut-être aimé aussi un vrai nouveau Mario en 3D. Bon, Mario Odyssey 2 ou quelque chose comme ça, on va attendre un petit peu, hein, même si j'ai voilà. Et en même temps, ils ont entre guillemets aucune raison d'annoncer un Mario 3D aujourd'hui parce que de toute façon, ils vont vendre largement leur réédition et
c'est ça, ouais.
Et voilà, donc voilà, non, c'est disons que c'est assez solide, il s'adresse à tout le monde et avec des petits objets nostalgiques, juste ce qu'il faut pour pouvoir faire sortir la carte bleue, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect, il y a la plupart des choses qui seront plus disponibles dans 6 mois.
C'est... Ouais, je comprends pas. Là, pour le coup, je trouve ça... Enfin, surtout pour un jeu vidéo qui est disponible en dématérialisé. Enfin, autant sur des consoles mini qu'ils arrêtent la prod, ok. Mais là, sur un jeu vidéo que tu peux télécharger,
Non, mais bah, je ne comprends pas. C'est très simple à comprendre. C'est qu'ils veulent en vendre plus et ils créent un sentiment d'urgence un petit peu artificiel. Et la version positive de la chose, c'est ça fait événement, tu vois. C'est le truc qui est disponible que maintenant. C'est ce que faisait Disney très bien avec son Vault avant qu'il n'ait Disney Plus ou, à terme, il y aura tout. Mais
ouais, c'est, vrai.
C'est l'événement. Slash le fait de... Moi, je vais peut-être l'acheter pour cette raison un petit peu, tu vois. Je me dis, bon, après, je ne pourrais plus l'avoir. C'est un petit peu manipulateur, mais en même temps, c'est très malin de la part de Nintendo, quoi. C'est là encore, ils ont une maîtrise de leur truc, mais...
Après, je me dis qu'ils ont pas besoin de faire ça. Enfin, je pense qu'ils auraient vendu tout autant s'ils n'avaient pas fait ça. Je suis pas convaincu par la démarche, personnellement.
D'accord. Autre chose qui a été annoncée, parce que vous pensiez qu'ils avaient droppé le mic que pour ça, ben non, ils ont également annoncé Hyrule Warriors, Age of Calamity. Alors Hyrule Warriors, c'est un Dynasty Warriors, ou un clone de Dynasty Warriors, fait par... Ah, mon Dieu, je sais plus, je connais plus le nom
c'est
du... C'est Koei Tecmo, non
Tecmo, ouais, c'est Koei Tecmo, ouais, c'est Koei Tecmo.
J'imagine que c'est eux qui font celui-là également, et c'est un prequel à... Breath of the Wild, justement, et là encore, c'est un coup de génie parce que le précédent Hyrule Warriors avait été correctement reçu, mais c'était pas un jeu de folie. Mais le monde de Breath of the Wild est tellement joliment conçu, tellement à tous les points de vue, hein, je veux dire, l'histoire est intrigante et on se demande ce qui a fait que le monde est dans cet état aujourd'hui et qu'est-ce qu'il était avant la calamité Ganon. Que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas forcément intéressés par un Dynasty Warriors, qui vont se jeter dessus. Et en plus de ça, il sort bientôt, non ? Le 20 novembre. Donc, moi, j'ai trouvé ça, là encore, et c'était un drop de vidéo sans annoncer quoi que ce soit. Et l'Internet s'est enflammé. C'est là encore hyper, hyper malin et bien fait de la part de Nintendo, qui, en plus... Ils vendaient déjà des camions entiers de Switch et ils ont augmenté leur production. Ils sont aujourd'hui en cible à 30 millions de Switch vendus cette année. Cette année, c'est pour vous donner une comparaison. Alors, c'est la pire console qu'ils aient fait, mais la Wii U, elle s'est vendue à 13 millions d'exemplaires sur l'ensemble de sa vie, l'ensemble de sa carrière, la Wii U. Là, ils en sont à 30 millions sur une année. Enfin, bref, Nintendo.
Ils sont bien, ils sont bien. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de sortir un nouveau Mario, de sortir ou pas, donc ils prennent leur temps pour un Breath of the Wild. Ils pourraient rééditer tous les trois mois l'ancien catalogue de Nintendo, ils en vendraient. Et franchement, c'est quasiment les seuls qui peuvent se permettre ça, quoi. C'est vrai qu'ils ont cette position extrêmement confortable, que les joueurs disent quasiment amène à tout, à tout ce qui sort. Alors qu'effectivement, comme tu disais avant, ce serait un autre éditeur qui ferait des moves style on met la compile disponible 6 mois, il se ferait éclater en direct sur Twitter.
T'es d'accord, j'ai fait un petit tweet hier à l'annonce de Hyrule Warriors, quand tout le monde était en train de lose their minds sur Hyrule Warriors, qui est très sympa, hein, je suis sûr que c'est sympa, mais tu vois, c'est genre la suite d'un clone de Dynasty Warriors qui était marrant, mais bon, pas plus. Et tout le monde dit, oh mon Dieu, day one, je veux, machin. Ok, très bien. Et je disais, c'est quand même fou, le fandom de Nintendo, à quel point les gens sont positifs et contents à chaque fois que Nintendo dit quoi que ce soit. Et quand c'est pas un truc cool, les gens disent, ouais, bon, ok, c'est pas génial, hein, franchement, c'est pas cool, mais bon, ils oublient vite parce que c'est Nintendo. Et j'ai eu des réponses, alors évidemment, de gens qui me disaient, oh, mais pourquoi, machin. Et je me disais, bon, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais t'es d'accord quand même, le fandom de Nintendo, ils sont très, très positifs sur ce que fait Nintendo, quasiment quoi que ce soit.
Et pas forcément tout le temps, parce que je sais que par exemple, moi, notamment dans les derniers Nintendo Direct qu'il y a eu, qui étaient destinés aux jeux indés, par exemple, ou aux éditeurs tiers, alors c'est pas des jeux Nintendo.
Ah, mais c'est pas Nintendo, c'est pas pareil.
Mais c'est quand même un Nintendo Direct. Et là, j'ai vu globalement les gens qui étaient, même les fans de Nintendo, qui étaient hyper déçus parce que les jeux indés qu'ils présentent sont pas.
Ouais, mais c'est pas Nintendo.
Soit c'est des portages HP. Ouais, c'est pas Nintendo. Oui, oui. Après, quand ça vient d'une licence Nintendo, après, Hyrule Warriors, faut quand même rappeler que c'est un genre très spécifique. Et un genre qui plaît pas à tout le monde, quoi. Si vous attendez à avoir un jeu à la Zelda, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le genre, bah vous allez être déçus parce que c'est vraiment un jeu de bourrin, quoi. C'est vraiment un jeu où c'est une sorte de beat'em all en 3D où tu vas affronter des vagues d'ennemis sur des grandes cartes et c'est à peu près tout, quoi. Après, c'est très sympa pour le côté fan service parce que là tu auras plein de personnages, tu auras des environnements qui vont te rappeler tel ou tel truc. Ces jeux-là, ils avaient fait pareil pour Dragon Quest. C'est vraiment des jeux avant tout faits pour le fan service, quoi.
Ouais. Et j'avais beaucoup aimé celui de Dragon Quest, justement, alors que j'étais pas fan de Dragon Quest avant. Et j'avoue que, malgré mes critiques sur Hyrule Warriors, celui-là, ne serait-ce que parce qu'il a l'aura de Breath of the Wild et cette histoire intéressante et l'état du monde intéressant, je pense qu'il est pas du tout impossible que je m'y intéresse de très près. Donc, je comprends pourquoi c'est... Enfin, c'est fou que juste avec Breath of the Wild, on nous ait intéressé à cette version du monde de Zelda au point de se dire... Ah ouais, mais on va voir le monde avant, avec la carte qu'on a visitée avant la destruction, ça va être super cool, quoi, rien que ça. Et je suis d'accord, donc je comprends l'enthousiasme également. Mais Julie, on va avancer à la Nvidia RTX 3000, mais avant ça, un mot sur les annonces de Nintendo. Est-ce que c'est des choses qui te parlent, les Mario mignons et les Zelda sympathiques?
Bah, moi, pour l'annonce Super Mario 64, Sunshine, etc., je suis assez hypée parce que Super Mario 64, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, donc je m'en fiche en fait finalement qu'il soit pas totalement rework et que ce soit juste un portage. Et ça me suffit en fait, parce que ça va me permettre de retrouver un peu ce que j'avais avant comme sensation quand je jouais. Après, c'est vrai que je suis un peu le côté c'est disponible pendant 6 mois, ça me dérange un peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me force à l'acheter et je serais presque pas capable de ne pas l'acheter à cause de ça.
Ah ouais, genre réaction.
Bah, c'est en plus pour moi qui travaille dans le marketing, je vois très bien l'idée qu'il y a derrière et ça me dérange en fait. Je trouve ça pas très respectueux pour les fans de Mario, donc voilà, ça me dérange un peu. Et après c'est marrant parce que du coup, vous avez parlé de Mario Kart Live comme un jeu un peu pour les enfants. Moi, je suis hyper hypée par ça. J'ai trop hâte d'avoir les petites voitures qui vont se balader dans ma maison et de jouer avec mes potes en soirée avec ça. Donc, c'est vraiment Super Mario 64 et ça, c'est les deux annonces qui, pour moi, hype énormément. Game & Watch, malheureusement, je n'ai jamais touché. donc,
ça ne parle pas trop.
Voilà, c'est ça.
Faudra voir avec le Mario Kart Live si c'est vraiment faisable dans les appartements parisiens de taille normale.
Ah, moi, ça me fait rêver. Ouais. Nick, tu vas détruire ton appartement malheureusement, mais ça bah,
tu, tu déplaces tous les meubles. Hein. Il y a la pièce Mario Kart.
ou alors tu joues avec les meubles justement comme obstacle.
Ouais, ouais.
Moi, ça m'intéresse énormément.
Il faut vraiment que la techno soit au point. Quoi. Moi, j'ai un peu peur que ce soit très, très approximatif.
Ouais,
c'est un challenge.
Pour expliquer, on aura donc une voiture, en fait il y en a deux, et elles sont pas bon marché, hein. Je crois qu'elles sont à une centaine d'euros la bagnole, je dis peut-être une bêtise.
Je crois que le pack de base avec une voiture est à peu près à 100 euros. Ouais.
Ouais. Donc on a une voiture, il y en a deux qui existent, Mario et Luigi, si je ne me trompe pas, et il y a donc des sortes de panneaux d'arrivée, il y en a quatre qu'il faut placer dans la pièce, et la voiture va passer sous tous ces panneaux. Je ne sais pas si on peut passer, alors oui, entre les meubles peut-être, mais il faudra voir à quel point la voiture peut repérer les obstacles, tourner, les éviter, ou alors s'il faut vraiment faire un cercle très simple avec les quatre panneaux pour qu'elle puisse s'y retrouver. Mais oui, je peux imaginer que ça ferait... Alors, c'est plus dans l'esprit jeu de société, on va dire. C'est l'ADN jeu de société de Nintendo. Mais je peux tout à fait imaginer qu'on va avoir quelques soirées entre amis où on va se marrer. À noter quand même qu'il faut avoir une Switch et une voiture par joueur. Donc, ça revient un peu cher vite, mais...
Heureusement, la Switch, c'est facile de la transporter. C'est aussi hyper innovant comme idée. Donc, moi, ça me... Vraiment, je trouve ça très, très cool. Quand j'ai vu ça, j'étais là... incroyable. Alors j'espère écoute, vraiment que ça va bien marcher.
Tu nous diras ce que tu en auras pensé. Nvidia RTX 3000, là aussi, on est dans l'annonce massue, l'annonce coup de poing. Évidemment, Nvidia est le roi des cartes graphiques, même si le terrain est en train d'être rattrapé par AMD de l'autre côté avec ses Radeon. Mais là, il sentait justement l'arrivée ces Big Navi, je crois, la prochaine génération de processeurs graphiques de AMD. Et donc, ils ont tapé un grand coup avec leur série RTX 3000. La génération précédente, la RTX 2000, comme vous le savez certainement, était celle qui a amené le ray tracing sur PC. Et le problème de cette génération, en fait, c'était qu'en activant le ray tracing, on pouvait parfois... Alors évidemment, les jeux étaient plus beaux parce qu'on avait du ray tracing, on ne va pas réexpliquer ce que c'est. Les jeux étaient plus beaux avec le ray tracing, mais au niveau fréquence d'affichage, on pouvait parfois perdre de la fréquence d'affichage, donc en fait un jeu moins fluide et moins sympa à jouer par rapport au même jeu sans ray tracing sur la génération des RTX, des GTX 1000. Donc, on pouvait upgrader, mais on gagnerait le ray tracing, mais au mieux, on resterait à peu près au même niveau de fréquence de FPS avec la nouvelle génération. Là, avec la RTX 3000, le gros message, c'est on a tellement plus de puissance pour le même prix que non seulement on affiche le ray tracing super bien, mais en plus, on double, alors je schématise un petit peu, hein, mais on double la fréquence d'affichage par rapport à la génération précédente. Je ne parle pas par rapport à la génération des GTX 1000, hein, mais par rapport à la génération des RTX 2000. Donc, il y a de temps en temps, je dirais tous les 10 ans, un saut technologique qui est tel dans le domaine des cartes graphiques souvent, mais parfois d'autres composants, que c'est le moment où il faut changer de carte si on n'en a pas acheté une de la génération juste avant. parce que, par exemple, là, on a trois modèles qui vont arriver. La RTX 3070, la RTX 3080 et la RTX 3090, qui là, on va dire, la 3090 est presque une carte professionnelle. C'est une carte à 1 500 €. Qui fait de la 8K, donc si vous voulez faire le kéké et dire que vous avez la plus grosse, vous pouvez, mais a priori, c'est pas une carte qui est vraiment designée pour le grand public. On part plutôt sur la RTX 3080, qui coûte quand même 700 €, donc c'est pas donné, qui arrive dans quelques jours à peine, en version Nvidia, et la 3070, qui coûte 500 €, et chacune de ces cartes est respectivement, allez, je schématise encore, plus puissante que la carte de la gamme d'au-dessus de la génération précédente. C'est-à-dire que la 3070 est plus puissante qu'une 2080, largement, et la 3080 est plus puissante que la Titan, la RTX Titan, enfin, la carte de la gamme d'au-dessus d'avant.
La 3090 est plus puissante que la Titan RTX, qui était l'équivalent dans le monde professionnel, on va dire.
Oui, pardon, moi je pensais à la 3080 qui est plus puissante que, je m'y perds dans les...
Et plus puissante que la 2080 Ti, qui est la...
D'accord, voilà.
Qui était le haut de gamme, on va dire, qui était...
Consumer.
Mais qui est entre la 2080 et la Titan RTX.
C'est voilà. Ça. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que oui, c'est des cartes graphiques, c'est forcément un petit peu cher, donc c'est pas tout à fait le même marché que les consoles. J'ai vu beaucoup de gens dire, ah voilà, les consoles sont obsolètes, machin. Bon, d'une part, les consoles, ça se compte pas de la même manière, et puis surtout, c'est pas la même utilisation. Et c'est uniquement la carte graphique qui coûte ce prix-là. Il faut rajouter le PC qui va avec derrière. Mais si on est un joueur PC, je crois qu'à terme, on va dire dans les 6 mois à 1 an, c'est le moment de mettre à jour. Et moi qui ai une 970, rendez-vous compte, hein, c'est pas la génération d'avant, oula, c'est pas celle d'encore ouais. Avant, c'est celle... Hey, et là, je vais me faire un PC de fou parce que le mien a 6 ans, donc il est temps.
Comme disent les jeunes, tu vas voir flou, quoi.
Voilà, exactement.
Je me suis connu cette expression, mais voilà.
Je vais.
Non, mais c'est hey. Pour le coup, pas assez. Ouais.
Je t'avoue que je vois déjà un peu flou avec ma vieille machine. Non, elle fonctionne très bien.
Littéralement, pour de vrai. Ouais.
Mais donc, ce que ça veut dire surtout, pour moi, c'est que le ray tracing va arriver partout. Toutes les nouvelles consoles ont le ray tracing. La génération 2000, RTX 2000 de cartes graphiques a défriché le terrain. Et tous les développeurs vont avoir intérêt à intégrer le ray tracing parce que. À partir de maintenant, l'avenir est fait de machines qui peuvent gérer le ray tracing. Donc, c'est maintenant qu'il faut changer. Je suis désolé si vous avez acheté une 2080 ou une 2070. Je suis sûr que vous l'avez beaucoup aimé. Mais je crois que c'était un peu tôt pour sauter le pas. Aujourd'hui, même un jeu comme Fortnite va intégrer le ray tracing. Ceux qui se disent « Oh, Fortnite, c'est pas des beaux graphismes », ça n'a rien à voir avec la qualité des graphismes, c'est l'éclairage qui va devenir différent. Et on a bien vu que sur un jeu comme Minecraft, qui n'est pas la folie des graphismes, bah, ça peut donner des résultats intéressants. Pareil pour Doom, enfin voilà. Cyberpunk, pareil, il profite à fond de tout ce genre de choses. Et tous les jeux à venir vont avoir ces technologies. En plus de ça, ils poussent à fond le DLSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, le DLSS, c'est un moyen de calculer le jeu dans une résolution moindre et puis d'augmenter artificiellement la résolution par intelligence artificielle, justement, de manière hyper, hyper convaincante. Le DLSS 2.0 est vraiment, de l'avis de tous les experts, hyper convaincant, ce qui fait qu'on gagne en performance, finalement, en fréquence d'affichage. Il y a aussi des petites choses à côté, comme le Nvidia Broadcast pour améliorer la qualité des... du son et la suppression du son. Il y a aussi l'écran vert numérique, il y a des trucs pour la latence dans le jeu, enfin bref, tout ça c'est des accessoires. J'ai beaucoup parlé pour résumer tout ça. JK, toi qui es un fou de graphisme et de PC, t'as dansé sur la table, non ?
Bah oui, oui, bah puis même, je suis c'est mon taf, enfin donc c'est la rubrique que je gère sur jeuxvideo.com, donc autant dire que je suis en plein dedans, voilà, vraiment, je suis plus qu'en plein dedans, là. En fait, ces cartes, elles, sur le papier, elles sont intéressantes, et je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur les prix. Alors, ouais, c'est cher, oui, oui, enfin, ça reste, ça, par rapport à, évidemment, pour une console, c'est cher, etc., mais il faut quand même se rendre compte de ce qu'elle propose par rapport à la génération d'avant et par rapport au prix de la génération d'avant. On est quand même sur des tarifs beaucoup plus intéressants qu'avant. Sur la génération 2000, les cartes étaient chères. Les cartes étaient chères. Par exemple, une 2080 Ti, donc, qui est quasiment le plus haut de gamme aujourd'hui sur le marché, c'est entre 1200 et 1400 euros selon le constructeur. Juste la carte, hein, quand même. Et là, ils t'annoncent une 3080 qui est au moins aussi puissante qu'une 2080 Ti, voire plus puissante, à 700 euros. Donc, c'est juste deux fois moins cher, en fait. Donc, évidemment, c'est cher, mais voilà. Et pareil pour la 3070 qui est annoncée à 500 et quelques euros, qui, elle, est annoncée aussi puissante qu'une 2080. Donc, qui est, elle, vendue beaucoup plus cher aujourd'hui. Enfin, bref, tout ça pour dire que, en fait, moi, évidemment, j'attendais les annonces, j'ai suivi ça en direct, et tous les gens qui s'intéressent un peu au sujet s'attendaient à des prix très élevés. On s'est dit, on savait que les cartes allaient être puissantes, on savait que donc les performances annoncées, elles m'ont pas surprise plus que ça. Par contre, on pensait que les prix allaient être très élevés et ils ont été extrêmement agressifs sur les prix. Alors peut-être en préparation, en prévision de ce que prépare AMD. On sait aussi qu'ils passent à un... Alors je vais rentrer un tout petit peu dans la technique, mais ils passent à un procédé de gravure en 8 nanomètres. Donc les sont gravés plus finement, donc on peut mettre beaucoup plus d'unités de calcul. Et ce procédé de gravure, il est géré par Samsung. Et on sait que Samsung, en fait, ils ont plutôt bien négocié, en fait, avec Samsung pour avoir des bons prix en termes de finesse de gravure, ce qui a permis de réduire le prix de la carte. Donc, tout ça, en fait, fait que ça, plus leur techno de ray tracing et des DSX, etc., qui arrive.
Et c'est une nouvelle architecture, en plus, l'architecture Turing.
C'est ampère,
ampère plutôt que Turing. Ouais. Parce que c'est vrai que généralement, on a une fréquence TikTok depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que un coup, on change l'architecture, un coup, on change la vitesse de gravure. Là, ils font les deux d'un coup. Donc, forcément, coup, ouais. C'est... Donc,
voilà. Et du coup, voilà, on a évidemment donc ce gain de performance lié à la nouvelle architecture, lié à la finesse de gravure, lié au fait qu'il y ait beaucoup plus d'unités de calcul, lié au fait que le DLSS et le ray tracing arrivent à maturité, on va dire, en termes d'efficacité. Ce qui fait que, après, quand ils annoncent des performances deux fois supérieures, ce sera, a priori, ce sera vraiment pour les jeux qui utilisent spécifiquement ces technos. Je pense à Control, par exemple, Control qui est l'un des exemples parfaits pour parler de ray tracing, parce que c'est un jeu qui est très, très, très impressionnant en ray tracing. A priori, Control, sur une 3080, tu vas pouvoir jouer en 4K à 60 FPS avec tout le ray tracing à fond, ce qui était impossible sur la génération précédente. Donc ouais, c'est super prometteur, c'est super prometteur. On va avoir les premiers tests de cartes graphiques qui devraient arriver d'ici la sortie, on va dire, donc dans une semaine. Donc ouais, non, c'est une belle, c'est vraiment un gap très intéressant. Et maintenant, il faudra voir ce que va faire AMD, parce qu'AMD, ils ont annoncé hier qu'ils présenteraient leur nouvelle carte graphique en octobre. Donc on les attend pas mal, et ce seront des cartes graphiques qui seront des dérivés de ce qu'on va avoir sur les consoles en plus. Donc voilà, tout va se retrouver un peu là dans une immense bataille, ça va être sanglant à mon avis.
Donc d'ici la fin de l'année, je pense que les choix pourront se faire. Il n'est pas à exclure non plus qu'ils sortent à terme, peut-être même l'année prochaine, une 3060 qui serait un petit peu moins chère, et peut-être même une 3050 à terme. Ouais. Donc peut-être attendre un petit peu, mais cette génération... Là. Ouais, vas-y.
Juste à la 3060, enfin la gamme 60, donc 2060, 1060, etc., c'est vraiment le truc quasiment le plus populaire en termes de mass market, enfin de qui se vend le plus, parce que c'est en général c'est beaucoup moins cher, et ça offre un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Ne serait-ce que sur Steam, quand tu regardes les stats des joueurs, des gens sur Steam, la carte la plus utilisée, ça reste la GTX 1060 aujourd'hui, tu vois, donc qui est une carte qui date maintenant, quoi. Donc on peut imaginer une 3060 qui offre des performances très très impressionnantes pour 300 euros, ça peut être encore plus intéressant.
Ouais, 1060 qui date, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, j'ai une 970.
Ah, mais c'est une super bonne carte, la 970, mais je pense que là, c'est bon. Maintenant, elle a bien
servi. Mais justement, moi, je l'avais acheté. Je crois que la 970, c'était un petit peu l'équivalent de cette série 3000. C'était le moment où c'était un super rapport qualité-prix. Est-ce que tu me suis un petit peu sur cette idée que là, on est dans un de ces moments rares où la question de l'upgrade se pose même pas, à moins vraiment qu'on vienne d'acheter une carte série 2000. Évidemment, il faut attendre la fin de l'année, voir ce que propose AMD, peut-être attendre la 3060, mais c'est quand même un moment exceptionnel là, dans le cycle. Ah bah,
c'est un moment, oui, c'est un moment exceptionnel. C'est même un moment où ce sera peut-être l'occasion de faire d'excellentes affaires sur la génération précédente, parce que quand tu vois, encore une fois, quand tu vois une 3080 à 700 euros face à une 2080 Ti à 1400 euros, ce sont des cartes qui vont perdre énormément en valeur. Donc, tu vas pouvoir en trouver d'occasion à des prix probablement très intéressants. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour miser sur le local, sur la génération précédente, ou investir dans la génération 3000, ce sera le moment de changer.
Ouais. Donc, moi, je dirais l'occasion sur les composants informatiques, je fais pas trop confiance à l'occasion. Mais...
Bah, sur un GPU, ouais, s'il a beaucoup de services, et bon, même si c'est fiable en général, mais bon, oui,
c'est vrai. Ouais. Bon, et tout ça, les dates de sortie, donc c'est entre maintenant et le mois d'octobre. Donc, et c'est pour les cartes Nvidia, les cartes des partenaires arrivent dans les mêmes semaines. Donc, ça sera bientôt disponible.
Par contre, ça va être très, très compliqué, à mon avis, d'avoir des cartes Founder. Donc, les Founder, c'est des cartes Nvidia. On sait à peu près globalement que les stocks seront assez limités et ça va partir très, très vite. Surtout c'est que les cartes Founder sont en général les cartes les moins chères. C'est les designs de référence, c'est les cartes les moins chères. Donc, il faudra se tourner peut-être vers les constructeurs, mais qui auront peut-être des modèles plus chers ou bon, ça va être un peu la bataille pour en obtenir.
Julie, est-ce qu'on t'a convaincu que c'était le moment de mettre à jour ta carte graphique?
Bah, moi je suis un peu triste parce que j'ai refait mon PC il y a 6 mois.
Ah non.
Et que je me suis acheté une 2000. Du coup, mais j'ai été très surprise par les prix aussi. J'ai trouvé ça vraiment pas cher. Surtout que du coup, bah, je m'étais renseignée sur les prix il y a pas si longtemps ça vu que j'ai refait mon PC. Donc ouais, je suis un peu déçue, je me dis que j'aurais dû attendre un peu.
Écoute, c'est terrible parce que je pense que vraiment la génération 2000, c'était intéressant parce qu'il y avait le ray tracing, mais pour moi, c'était celle qu'il fallait sauter, et il y a plein de gens qui en ont acheté, et bon... Ça ne veut pas dire que votre carte est bonne pour la poubelle. Hein. Elle tourne toujours très bien, elle est très puissante, il n'y a pas de problème. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc toi, non.
Moi, j'ai pas de souci de perte de FPS, etc. Parce que derrière, j'ai vraiment un PC qui est assez solide. Mais donc, je suis très très contente avec ma carte graphique et
c'est très grave. Hein.
Je suis ravie de me rassurer. C'est grave.
Moi, je fais le beau parce que j'ai une très vieille carte, donc forcément, j'ai pas l'amertume. Mais non, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des cartes 2000 quelque chose et elles sont très très bien. Donc,
oui, voilà, elles sont très très bien.
Ça a d'excellentes cartes. Et c'est juste, elles étaient vendues un peu trop. Enfin, aujourd'hui, quand tu vois les prix des nouvelles, forcément, ça fait un peu mal au cœur. Moi, je pense surtout aux gens qui ont acheté une 2080 Ti il y a genre 2 mois et qui voient une carte arriver 2 fois moins chère et plus puissante. Quoi. Franchement,
dégoûté.
Bon, bah écoutez, c'était nos sujets principaux. On va faire une toute petite pause pour vous rappeler, d'une part, qu'on est en hebdo. Je vous l'ai dit, non ? On passe en hebdo toutes les semaines, tous les jeudis, jeudi après-midi. Vous avez le rendez-vous jeu qui vous attend dans votre app de podcast. Ça, c'est super cool. Et vous pouvez également participer au Patreon pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez le travail qu'on met là-dedans, eh ben vous pouvez tous soutenir sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission. Et ce que ça vous donne, c'est quoi ? C'est plein de petits bonus, plein de petits trucs cool, des éditos, des accès à des trucs en plus, comme les émissions sans pub, avec zéro pub, zéro promo, même pas cette petite partie au milieu, hein, même pas besoin. Vous avez également un accès à la newsletter étendue. La newsletter étendue, je fais une newsletter qui est également sur notepatrick.com, très facile pour s'abonner, et vous avez accès à une newsletter avec plus d'articles dedans. Je fais une grosse veille en fait, et cette grosse veille, j'en prends les meilleurs articles pour la tech et le jeu vidéo, et j'en prends les meilleurs articles et je vous les livre dans une newsletter qui est accessible à tout le monde, mais également pour les patriotes, et les patriotes ont un petit peu plus d'articles là-dedans. Il y a également l'accès au Discord pour certains des patriotes, qui est un Discord super cool où on parle des derniers épisodes justement, mais il y a aussi une partie privée où on parle de plein d'autres sujets et de l'actu notamment. Il y a quoi d'autre ? Enfin, vraiment, c'est, je vous parle des bonus et c'est un truc cool, je pense, enfin j'espère que ça vous plaît, mais le but du Patreon, c'est vraiment de soutenir l'émission et de donner une rémunération au travail que vous appréciez. Un petit peu comme à l'époque où on allait payer son magazine dans un kiosque, vous savez, pour les vieux d'entre nous qui se souviennent de ce que c'est que les Game & Watch, et ben, il y avait aussi un moyen de payer les journalistes en, et les maisons de presse en achetant des magazines. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, si vous aimez bien, vous pouvez bien sûr consommer l'émission gratuitement, ça c'est évident, mais si vous voulez récompenser le travail ou si vous en voulez un petit peu plus, ben patreon.com/rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission. Et merci à tous ceux qui le font déjà, vous savez que vous êtes mes personnes préférées au monde. Derrière ma femme et mon fils, mais de peu, c'est juste derrière. C'est un petit peu comme la 2080 après la, 3080 en gros, à peu près. Entre parenthèses, dans la newsletter de cette semaine, il y a un super article de jeuxvideo.com, la crèmerie de JK, sur la vente à perte et les fantasmes qu'on a sur la vente à perte, ce que c'est, ce que ça veut dire. Vraiment super article, donc vous pouvez chercher, c'est quoi le titre, c'est « Console et vente à perte, mieux comprendre cette pratique aux multiples facettes ». Vraiment, vraiment intéressant, et il sera dans en lien dans la newsletter. Donc, par exemple, c'est le genre de choses que vous pouvez y trouver. Alors, Marvel's Avengers, bon, il y a plein de jeux qui sont sortis, hein, évidemment, il y a Tony Hawk, One and Two, qui a de très bonnes reviews d'ailleurs, un jeu Activision qui a de très bonnes reviews, peut-être un peu surprenant, Wasteland 3, Crusader Kings.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les trois qui font de l'œil à JK tous les deux. Et Tony Hawk, je suis sûr que toi, à l'époque, tu avais la casquette et tu montais sur les skates, non ?
Pas loin.
Pas loin,
c'est Tony Hawk 3 qui m'avait marqué, moi. Moi, j'aimais bien, mais c'était pas c'était pas une licence phare. J'aimais beaucoup, je crois que c'est le 3 sur PS2 auquel j'ai beaucoup joué, mais à l'époque, sur PlayStation, pas trop.
J'avoue que la licence est descendue tellement bas, j'attendais pas grand chose de Pro Skater 1 and 2, le remake, mais j'ai rarement vu une presse aussi unanime sur la qualité d'un remake autant aimé. Enfin, c'est pas vrai, ça commence à devenir assez commun maintenant, il y a des remakes de très bonne qualité, en particulier chez Activision, ce qui est, comme je le disais, généralement les gens sont pas très tendres avec Activision, et là, tout le monde est positif, quoi.
Ouais, ça a l'air plutôt bien, plutôt propre, quoi.
Yep, et je pense que les gens qui sont suffisamment fans l'ont déjà, donc voilà. Mais il y avait aussi la sortie de Marvel's Avengers, auquel j'ai pas mal joué. Vous savez que je suis un grand fan de Marvel et des films Marvel. Et le jeu, je suis sûr que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Donc, je pourrais vous en parler pendant une heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu, et pas forcément en bien, mais je vais pas faire aussi long que ça. Je sais que certains auditeurs redoutaient le passage sur Marvel's Avengers, parce qu'ils savent que je suis fan du truc, et le jeu les intéresse pas forcément, mais c'est un jeu qui est hyper complexe. Hyper complexe, il est difficile d'en parler, en fait, parce que c'est un jeu qui est objectivement pas très bon sur une énorme partie de ce qu'il fait. C'est plein de problèmes, et je suis sûr que quand vous avez entendu parler du jeu, vous avez entendu parler des problèmes. Et bien moi, j'ai passé, je sais pas, 20-30 heures dessus déjà, et je peux vous dire que tout ce que vous ont dit les gens en mal sur ce jeu, et bien c'est complètement vrai. Il y a une série de problèmes, mais la liste, elle est interminable. Des problèmes techniques qui sont allez, on va dire, ça peut être très gênant parfois, mais ça casse pas le jeu complètement non plus. Mais surtout des problèmes de design, des problèmes de des problèmes artistiques, des problèmes des ennemis qui se répètent, des environnements qui sont pas inspirés, des systèmes qui se marchent les uns sur les autres. Il y a vraiment un jeu qui est bon, plein de problèmes. Vous allez vous dire bon, mais il y a un mais là. Oui, il y a un mais parce que au cœur de tout ça, il y a deux choses qui valent la peine, à mon sens. Plus ou moins en fonction de votre amour de Marvel. Je vais le dire d'entrée. Hein. Si vous n'aimez pas Marvel, je crois qu'il y a des choses bien plus intéressantes sur lesquelles vous pouvez dépenser votre temps et votre argent. Donc, si vous n'êtes pas fan de Marvel à la base, on est d'accord, ce jeu n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez bien Marvel, le mode histoire peut vous intéresser. C'est une dizaine, quinzaine d'heures qui est pas trop mal foutu. Pas trop mal écrit. J'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, mais c'est un jeu super sympa, le mode histoire est vraiment cool. » Et je suis d'accord qu'il est sympa, mais j'ai l'impression de revivre le moment de Destiny 2 et la sortie de Destiny 2 où les gens disaient « Enfin, on a un mode solo cool dans Destiny et une histoire vraiment intéressante. » Alors que l'histoire, c'était « Il y a un méchant qui vient et qui veut tous nous tuer et donc on doit le tuer plus fort que lui, il veut nous tuer. » Enfin, le truc de jeu vidéo classique qui était pour ma part, et Dieu sait que je suis un fan de Destiny, hein, mais le jeu était vraiment pas intéressant. Donc vous pouvez me faire confiance quand je vous dis qu'un truc n'est pas intéressant alors que je l'aime, je suis objectif. Là, c'est un petit peu le même cas. L'histoire est sympa, il y a des moments vraiment drôles, il y a une écriture qui est cool, il y a un jeu d'acteur, Troy Baker notamment, qui est hyper convaincant en tant que Bruce Banner, un petit peu désabusé. Il y a des moments qui m'ont fait rire, un petit peu comme l'écriture des films, il y a des blagues qui passent très bien, mais dans l'ensemble, l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard. Hein. Je dirais même qu'elle casse pas deux pattes à un canard. Donc, c'est sympa, c'est un bon moment, mais voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans le jeu pour moi, c'est le gameplay. Et ça peut être surprenant, mais ils ont réussi le truc. S'il y a un truc à réussir dans un jeu, c'est pas l'écriture, c'est pas les graphismes, c'est pas... S'il y a que ça et que tout le reste est raté, c'est pas les graphismes qu'il faut choisir, c'est le gameplay. Et franchement, le gameplay est sympa. Il est un peu sympa au début, et plus on approfondit le personnage qu'on va jouer, plus le gameplay devient sympa. Il y a plein d'options et de profondeur dans chaque perso. On a un grand arbre de talent qui va, sur lequel on va ajouter des points au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux. Et à la fin de l'histoire, on est niveau 10 à peu près sur tous les persos. Et après, on peut les pousser jusqu'au niveau 50. Et à chaque fois qu'on rajoute des points dans l'arbre de talent, ça va faire de la personnalisation, donc une sorte de spec comme dans un MMO, mais ça va aussi ajouter des capacités spéciales. Je vais vous donner quelques exemples. Avec Iron Man, on peut ajouter des armes différentes. Au début, on a juste les répulseurs, les trucs qui font, vous savez, dans les films, ça fait... Bon, le truc des films. Mais on a aussi les petits lasers rouges qu'on peut utiliser comme autre arme. On a des missiles qu'on peut utiliser comme autre arme. Et on peut changer d'arme à tout moment dans le jeu. Et chacun a des propriétés différentes. Et les combos de gameplay, c'est un, vous savez ce que c'est, hein, Marvel's Avengers, c'est un beat them all. Les combos sont complexes et différentes, contrairement à Ultimate Alliance, qui est sympa aussi. Hein, mais le gameplay de chaque perso est hyper basique. On a un bouton d'attaque faible sur lequel on appuie 4 fois, un bouton d'attaque fort et quelques coups spéciaux. Il n'y a aucune profondeur, aucune différence entre les coups, aucune complexité. Là, on a un truc un petit peu, je vais être généreux, mais un petit peu à la Devil May Cry. On a des boutons, on a deux boutons de force différentes. Si on appuie plus longtemps, ça change les choses. Si on appuie à tel moment, ça change les choses. Si on se met à viser, on peut avoir un gameplay à distance et ça change les choses. Si on vole avec Iron Man, on peut voler et ça change les choses. Enfin, il y a vraiment une réalisation du fantasme de l'incarnation de ces super-héros qui est réussie. Si on prend Hulk, par exemple, c'est un personnage qui se joue de manière complètement différente de Iron Man. Hulk, on va pouvoir, par exemple, dans le registre du fantasme du jeu du super-héros, de l'incarnation, de la simulation du super-héros, il y a les petits ennemis, on va pouvoir les taper, bien sûr, et puis les attraper pour taper les autres ennemis avec cet ennemi qu'on a attrapé. À terme, on peut carrément attraper deux ennemis et les taper les uns contre les autres, ça fait une déflagration. Enfin, il y a cette réalisation du fantasme qui fonctionne. Et en fait, les fans de Marvel's Avengers, les fans de Marvel, c'est ce qu'ils demandent dans un jeu comme ça. Alors évidemment, ça aurait été mieux que le jeu soit mieux pour qu'il parle à plus de monde, mais je pense que les fans de cet univers, ce qu'ils veulent le plus, c'est la possibilité de jouer ces personnages et les incarner comme ils les imaginent dans les comics ou dans les films. Et là, c'est plus ou moins réussi. Alors oui, après, effectivement, on est dans des couloirs génériques, à taper des ennemis qui sont tous des robots ou des cyborgs, ou des trucs qui ressemblent à des robots ou des cyborgs, et les missions sont systématiquement exactement la même chose. C'est pareil dans des jeux comme Diablo ou Destiny, hein, d'ailleurs. C'est à peu près ça, on a un couloir, on tue des ennemis et c'est tout. Sauf que dans ces jeux-là, l'enrobage est bien plus réussi, la motivation est bien plus réussie pour vous pousser à continuer à jouer, à essayer d'être plus puissant. Et l'histoire, bon, c'est ce que c'est, mais la direction artistique, la manière dont on vous ramène dans les mêmes niveaux pour faire autre chose, c'est beaucoup plus réussi. Là, il n'y a vraiment que ce cœur, ce squelette de gameplay qui fonctionne, avec le problème que quand on arrive à la chasse aux objets, vraiment au endgame, eh ben, il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose. Et moi, je crois que c'est parce que la motivation du gameplay ne va pas venir du endgame et de la chasse aux objets, ce qui d'ailleurs nous fait nous poser la question de pourquoi on a ajouté des objets à ce jeu qui n'en avait pas vraiment besoin, mais va venir des nouveaux personnages. Et je crois qu'ils savent que c'est là que va être l'intérêt, parce qu'ils ont déjà annoncé un personnage par mois sur les mois à venir, et le catalogue de Marvel, s'ils réussissent à créer des personnages vraiment au gameplay différencié, comme c'est le cas aujourd'hui avec tout le catalogue de Marvel, on a énormément de personnages sympas, enfin Vision, Scarlet Witch, Black Panther, et même dans d'autres domaines de Marvel, des X-Men avec Wolverine, des Quatre Fantastiques, enfin un catalogue de personnages énorme. S'ils réussissent à amener des personnages régulièrement avec un gameplay vraiment différent, ça peut être un truc sympa sur le moyen, long terme pour les fans de Marvel. Et encore une fois, si on n'est pas fan, c'est pas à vous que ça s'adresse. Et les problèmes que vous avez entendus, dont vous avez entendu parler sur le jeu, ils sont exactement comme vous en avez entendu parler. Mais voilà, j'espère que ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est ce jeu, parce que je crois que c'est très difficile à appréhender. Et je pense qu'il va y avoir une communauté assez fidèle au jeu, qui va s'amuser de temps en temps quand il y aura un nouveau perso qui sort. Je pense pas qu'il va détrôner les jeux services existants, hein, pas du tout. Je pense même qu'il va pas répondre aux ambitions de Square et de Crystal Dynamics, à moins qu'il vous vende une extension qui refait un petit peu le jeu dans un an ou deux. Mais il y a quand même quelque chose, et ce quelque chose, c'est le gameplay. Et le gameplay, c'est ce qu'il y a de plus important dans un jeu. Donc voilà mon estimation sur ce jeu-là. Bon, je vois que...
Écoute, c'est bien que tu sois satisfait du jeu, parce que c'est vrai qu'il s'est fait un peu, et il s'est fait un peu éclater. Moi, je donne pas mon avis, parce que j'y ai trop peu joué pour avoir un avis pertinent dessus. Après, c'est vrai que le feeling du peu que j'en ai vu des héros, il est vraiment plutôt agréable. C'est la bonne surprise. Enfin, c'est la bonne surprise, c'est le point. Je comprends quand tu dis que c'est le point, hein, c'est le point positif, le gameplay et tout. Voilà. Après, je sais que moi, je suis pas sûr d'y jouer beaucoup parce que j'aime bien Marvel, mais je suis pas dingue du truc et j'ai les jeux qui m'intéressent plus. Donc voilà.
C'est oui, je comprends tout à fait et je pense que c'est la bonne approche. Mais oui, les personnages différents, ils sont tous différents. Quand on joue Thor, on n'a pas l'impression de jouer Captain America. Et le feeling de chacun des persos, et surtout quand on monte en niveau, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui ont été agréablement surpris par la partie histoire, ce qui est cool, et qui se sont dit « Ah ouais, le gameplay n'est pas top ». Mais quand on monte en niveau, et bon, il faut s'être accroché un petit peu, même pas vraiment, moi j'ai pris du plaisir dès le début, mais quand on monte en niveau, le gameplay se complexifie. Et donc bon, à voir. Moi, j'ai vraiment sincèrement hâte de voir ce que va donner le jeu avec les nouveaux persos qui vont arriver, tu vois, ce qu'ils vont trouver comme... Parce que je ne vous parle pas de tous les personnages, hein, mais il y a plein de trucs hyper malins dans le gameplay pour que ça colle au fantasme du personnage des comics. Et je suis très curieux de voir comment ils vont modéliser ces gameplays pour les nouveaux personnages. Parce que là, il y a vraiment plein de trucs. Ils ne sont pas tous aussi réussis les uns que les autres, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt à un bon niveau. Et il y en a plein où tu te dis, ouais, là, c'est comme ça que je m'imaginerais jouer le perso sur lequel tu vois, sur lequel je fantasme dans les comics depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Donc bon, bref,
ouais. Après, oui, c'est sûr que c'est un jeu qui, enfin, comme beaucoup de ces jeux services, de toute façon, c'est des jeux qui vont, en général, ce qui se bonifie avec le temps. C'est que soit le jeu est raté complètement et il est abandonné par les développeurs, enfin, j'allais citer Anthem, mais Anthem est censé être sauvé. Soit effectivement, le jeu est constamment amélioré et devient un truc vraiment, vraiment, vraiment hyper intéressant.
Ouais. Je dirais que là, il est difficile de ne pas l'améliorer tellement il part de bas. Mais bon.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, je reconnais justement, complètement.
Est-ce que les ventes vont suivre? Est-ce que, tu vois, si les ventes suivent, c'est évident que les studios vont se concentrer dessus et vont l'améliorer à coup de mise à jour, etc. C'est tout ce que je peux souhaiter à la limite au jeu, quoi.
Difficile à dire. La démo a été très, très, très downloadée. Ça ne veut pas forcément dire que...
C'est la démo la plus downloadée, je crois, l'histoire du PSN sur PC.
C'est ça. Il y a eu 6 millions de joueurs, ce qui est beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Marvel. Je pense que c'est le genre de jeu qui ne va plus faire beaucoup de bruit, mais qui va avoir une communauté assez active. Petite, mais dédiée, et peut-être que ça suffira à le faire vivre. Après, les microtransactions, c'est que des trucs cosmétiques. Tous les persos qui vont être ajoutés, on les paye pas. C'est que des trucs cosmétiques. Donc, peut-être que le jeu va baisser de prix, et avec les nouveaux persos qui vont arriver, il va y avoir à chaque fois des nouvelles vagues de gens qui vont s'y intéresser. Parce que si toi, ton perso préféré, c'est, je sais pas, Black Panther, bah, le jour où il sort, tu vas te dire, je vais l'essayer, il coûte maintenant plus que 40 ou 30 ou 20 euros, tu vois. Ou alors, il est inclus avec le Game Pass, ou il est inclus avec le PlayStation Plus, et du coup tu l'essayes, et après il y a des Battle Pass qui sont uniques par personnage, donc c'est pas tous les mois on a un Battle Pass différent. Les persos inclus avec le jeu, bah, le Battle Pass est gratuit et ça débloque des cosmétiques, donc bon, c'est cool, c'est long à débloquer, mais t'as toute la vie parce qu'il y en a qu'un de Battle Pass, donc c'est pas très grave. Et les Battle Pass des persos supplémentaires, eux, ils seront payants, mais c'est que des trucs cosmétiques. J'ai vu des gens s'en plaindre. Franchement, s'ils rajoutent 4, 5, 6 persos par an, et que le seul truc à payer là-dedans, c'est un Battle Pass cosmétique que tu peux payer, bon, ça va, quoi. Après, on n'est pas obligé de le faire. Les persos sont gratuits. C'est le gameplay, l'essentiel. Bref. Bon. Allez, on va passer à nos news supplémentaires, à moins que Julie soit une passionnée secrète de Avengers et qu'elle veuille me dire comme elle a apprécié le jeu. Je me sens seule.
Alors, pas du tout. J'aime beaucoup les films Marvel. Malheureusement, j'ai jamais réussi à être hypée par les jeux. Mais pas essayé.
Écoute, tu disais que niveau console, t'es plutôt PlayStation. Je te dirais que un meilleur jeu de super-héros avec lequel commencer, c'est Spider-Man d'il y a 2 ans. Celui-là, je pense que c'est une valeur sûre.
En général, je suis vraiment plus PC, mais j'ai ma PlayStation chez moi.
Bon, on va parler des news de ces 2 dernières semaines pour conclure l'émission. La Gamescom a eu lieu. J'ai fait plein de notes et je dirais que maintenant, il n'en reste plus grand-chose qu'on retient, vu les news importantes qui sont passées entre-temps. Il y a, World of Warcraft Shadowlands qui sort le 27 octobre, c'est la date. On a un DLC pour Doom Eternal. On a un méga early look pour Dragon Age, le prochain. C'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. C'est des trucs où on te montre des concept art et des développeurs contents et on te dit « Ah, premières images de Dragon Age. »
World premiere, c'est encore une...
Ouais, world premiere.
Exactement. Non, mais c'est juste pour rassurer, en fait, hein, pour dire, surtout ce qu'on sait par rapport au projet, par rapport à BioWare, la situation compliquée en ce moment chez BioWare et tout. Ouais. C'est juste pour rassurer en disant, vous inquiétez pas, le jeu est toujours là, on bosse dessus. C'est un projet qui, tu sens que c'est le projet compliqué qui a été rebooté plein de fois, enfin voilà.
Ouais. La plus grosse news de la Gamescom, évidemment, le nouveau single du groupe KDA de pop idol virtuel de League of Legends, The Baddest. pour le coup, je vais être honnête, moi j'ai été un petit peu déçu par ce single là parce que j'ai trouvé le clip qui était incroyable sur le précédent. Comment
Pop
il s'appelait
Star. True Damage.
Non, Popstar.
Ok.
Ouais, et qui était, mais des folies. On l'a écouté avec mon fils, mais des centaines de fois, ce truc, et il dansait comme un foutu. Celui-là, j'étais un petit peu déçu, mais bon, voilà, il continue KDA, le groupe virtuel, c'est marrant comme moyen marketing. C'est un truc, je sais pas si on peut te poser des questions là-dessus, puisque t'es chez Riot, mais c'est original comme. Pardon ?
Je dis, on peut me poser des questions, je pourrais peut-être pas répondre à tout.
Non, mais sur la conception du truc, c'est quand même hyper original de se dire, on va faire une chanson avec des idoles qui auront les voix de personnes connues, mais qui seront des personnages de notre jeu, mais qui n'ont rien à voir avec le jeu parce que c'est juste un groupe. C'est original. Comment c'est quelqu'un qui s'est réveillé un jour qui a dit, ouais, on va faire ça.
C'est presque ça. Ouais. Mais déjà, je veux juste rajouter que c'est en fait, on a annoncé un album complet et pas juste du coup le single The Baddest. Enfin, il y a un EP de 5 chansons du coup qu'on a annoncé, juste pour rajouter ça. Mais sinon, en fait, c'est tout simplement League, c'est un jeu qui maintenant a 10 ans, qui est à la fois énorme et à la fois, quand on compare à des géants comme World of Warcraft, c'est pas la même. Mais il y a toujours ce besoin de aussi essayer d'aller un peu plus loin que juste le jeu. Et c'est vrai qu'on avait commencé à sortir des musiques pour les Worlds, à faire des hymnes, etc. Et on avait fait KDA, clairement, qui est un peu sorti, j'imagine, d'une idée de quelqu'un à Central qui a voulu faire ça et qui s'est dit « bon, bah allez, on va le faire ». Et ça a eu un succès, mais dingue. Que ce soit auprès des fans du jeu, mais aussi auprès des fans de K-pop, etc. Et du coup,
moi, je peux dire que j'ai joué à League deux fois dans ma vie, mais pourtant, le single, je l'ai écouté en boucle.
Ouais, voilà, mais c'était le cas d'énormément. Du coup, bah, on était hyper contents de bosser sur le retour du groupe et d'aller même encore plus loin, du coup, avec un EP. Et clairement, ça s'adresse pas seulement aux joueurs de League, mais vraiment aux passionnés de musique et une cible beaucoup plus grande.
Ouais, c'est de la K-pop sous sa plus pure forme. Ouais, c'est marrant. Il faudrait que. On a eu Nicolo Laurent qui était venu dans l'émission, qui est un auditeur d'ailleurs. Qui est l'un des fondateurs de Riot, pour ceux qui ne savent pas, et il faudrait qu'on lui demande un jour, je suis sûr que lui, il sait exactement d'où c'est venu, comment ça s'est passé.
Il doit avoir l'histoire, c'est vrai que moi, je suis un peu loin de Los Angeles pour avoir la vraie histoire, mais il doit y en avoir une assez intéressante, on a toujours.
Ok, bon, Gamescom, je vais passer dessus, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, peut-être la date de disponibilité de Baldur's Gate
en Early Access. Bon, ce à quoi je pensais.
Mais je pensais à toi, tu vois, Baldur, ça me fait venir la tête de JK dans la tête.
Suite. Ouais, bien sûr. Mais ça c'est chouette. Après, je suis toujours quand même un peu sceptique par rapport au modèle annoncé, enfin choisi. C'est-à-dire que ce sera un accès anticipé. J'ai toujours du mal à savoir si j'ai envie de jouer à un RPG en accès anticipé. Il faudra voir évidemment à quoi va ressembler cet accès anticipé. Si c'est par exemple, le premier tiers du jeu, mais qui est super propre avec toutes les quêtes, etc., et qu'il faut attendre la suite, ça, à la limite, ça ne me dérange pas. Si c'est un truc qui n'est pas fini avec des bugs, etc., je vais peut-être devoir attendre. Après, j'ai plutôt confiance en l'Ariane parce qu'en général, les early access qui sont sortis jusqu'à présent étaient de bonne qualité. Donc, on le rappelle, c'est l'Ariane qui a fait notamment Divinity Original Sin récemment. Je pense que je pourrais pas m'empêcher d'y jeter un œil.
Je comprends. On a aussi eu l'annonce et la révélation de Call of Duty Black Ops Cold War, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait plusieurs live streams pour montrer leurs fonctionnalités. Il y en a une qui est pardon.
Non, je dis que moi j'attendais le jeu avec une certaine, presque impatience, j'ai envie de dire.
Ah oui, je suis curieux de savoir pourquoi, parce que Call of Duty c'est Call of Duty, bon, Black Ops c'est Black Ops, Cold War, il y a Ronald Reagan modélisé. Je disais à ce propos d'ailleurs, j'ai hâte de voir Call of Duty Black Ops Pandemic quand ils vont modéliser Trump, tu vois, moi ça me hype pas beaucoup.
Non, parce qu'en fait, je l'attends, mais Modern Warfare, le précédent, c'est un jeu auquel je joue toujours, presque tous les jours. Vraiment, c'est un super. Ah oui, en multi, c'est.
Pas Warzone, vraiment Modern Warfare.
Je joue aux deux. Quand je parle de Modern Warfare, je parle de Warzone aussi. Donc, soit je fais un Warzone, soit je fais un mode multi classique. C'est vraiment un excellent multi. A priori, je pense que le multi de Cold War sera pas, de ce qu'on en a vu, va énormément coller à l'héritage de Modern Warfare. Tu te demandes à quoi bon. Attends pas mal sur la campagne solo parce que c'est la suite de Black Ops 1, donc qui se passait dans les années 60. Et pour moi, Black Ops 1, c'était vraiment un bon solo de Call of Duty. Depuis quelques épisodes, ils sont assez bons sur les solos du côté de Call of Duty. World War 2, un super solo. Modern Warfare, le dernier, un solo très correct. Donc je suis plutôt curieux de voir surtout le solo. En fait, celui-là m'intéresse plus pour le solo que pour le multi, pour le coup.
Oh là là, mais tu me donnes envie de prendre le Cold War, là. J'ai bien aimé... Ouais, je crois pas, Activision. Ils viennent te chercher l'argent dans ton portefeuille, en fait. Mais c'est... Ouais, j'avais beaucoup aimé... Enfin, beaucoup aimé. J'avais bien aimé Modern Warfare l'année dernière, effectivement. Donc, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai qu'il était bien. Et puis, ça serait l'occasion de voir briller les nouvelles consoles, parce que les modélisations de personnages, par exemple, les visages étaient complètement fous déjà l'année dernière. Donc, ouais. Bon, à voir. Une mention sur...
Il y aura du ray tracing dans Modern Warfare et du DLSS. Ça a été confirmé.
Une mention quand même sur le multi. Ils ont annoncé dans la nuit plusieurs modes multi qui ont l'air, moi j'ai trouvé assez intéressant, mais surtout, ah zut, comment il s'appelle ce nouveau mode ? J'ai oublié le nom, c'est genre Fire Team, Firepoint, Flashpoint, où on est en fait 40 sur une carte dans des petites équipes de 4. Ça fait un petit peu penser à Battlefield. Et ça serait très intéressant de voir un mode comme ça à grande échelle avec le système plus arcade de Call of Duty. Peut-être du multi vraiment à grande échelle avec des cartes plus complexes que ce qu'on connaît, qui est très 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 arcade généralement dans le multi de Call of Duty. Mais là, quelque chose de plus opération de bon, grande envergure avec 40 personnes, mais quand même. Je suis curieux de voir ça.
Fireteam, le nom du mode.
Fireteam. Ah, j'en ai dit 14, j'ai raté Fireteam.
Flash...
Fireteam. Ah, je l'ai dit. Ok, merci. Ouf. Flashteam, Firepoint, Flashpoint. Ouais. Bon. Donc voilà pour la Gamescom qui est allée et venue avec Jeff Keighley. J'espère que l'année prochaine, ils auront quelque chose d'un petit peu plus convaincant. Autre news en vrac, alors AT&T a décidé finalement de ne pas vendre Warner Bros, enfin la division gaming de Warner Bros. En fait, ils ont dû se rendre compte qu'avec la pandémie, le jeu vidéo, ça rapportait beaucoup d'argent. Donc, ils se sont dit, on va les garder. Donc, ça ne sera pas ni Microsoft, ni qui que ce soit d'autre qui va racheter Warner Bros. En plus, avec les problèmes de licence, ça aurait été compliqué, hein, puisque les gros jeux de Warner Bros. Gaming, c'est des jeux qui sont liés aux licences de comics notamment, mais pas que. Sony a annoncé qu'ils veulent avoir encore plus de partenariats et encore plus d'exclusivité sur PC. Quand je dis partenariat, ça veut dire des jeux exclusifs pour eux et qui vont continuer à sortir des exclusivités à eux sur PC. On le sentait venir, hein. C'était vu la manière dont se vendent ces jeux-là, on savait bien que Sony et les autres pourraient pas résister bien longtemps. Shenmue va avoir droit à un animé sur Crunchyroll et Adult Swim. Je ne sais pas si le monde avait besoin d'un animé Shenmue. Je suis sûr que les fans, eux, en ont besoin. Et si ça se trouve, on sera tous bien contents de l'avoir, cet animé. Il pourrait être sympa. Epic. Ouais, je vais vous donner la parole dans une seconde. Je finis juste la petite série. Epic a annoncé qu'ils avaient 116 millions de joueurs sur iOS. C'est un tiers de leurs joueurs. Moi, je trouve que ça donne un éclairage intéressant à leur combat avec Apple. Dire non, enfin, faire une croix sur 116 millions de joueurs, un tiers de tes joueurs totaux, c'est quand même un peu couillu, je trouve. Et dernière petite news rapide, eSport, le UFC 4, ils avaient mis une pub en plein milieu des combats, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est presque une pub subliminale quand on revenait après les replays, un petit peu comme dans les trucs à la télé, mais là c'était presque plus, et ils l'ont retiré suite au scandale en disant « certains de nos joueurs n'ont pas aimé, donc on le retire ». Bon, un move à la IA quoi. Pardon, tu avais des choses à ajouter sur ce que je disais ?
Non, c'était juste pour dire, pour la blague, que plein de gens sur Twitter trouvaient que l'animé Shenmue avait l'air plus intéressant que le Shenmue 3. Donc voilà. Après, bon, voilà.
Écoute,
sans vouloir être méchant.
Oui, c'est un petit peu méchant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est encore des sociétés de production de contenu vidéo qui s'intéressent enfin à... aux propriétés intellectuelles du jeu vidéo. On a longtemps pensé que le jeu vidéo allait envahir les films, ça n'a pas l'air d'être le cas. Maintenant, c'est vraiment les productions de séries et de dessins animés et d'animés qui lancent, qui s'engouffrent dans la brèche et on a l'impression qu'ils sont tous en train de chercher, ok, qui on peut avoir, qui on peut prendre comme licence, et bon, c'est sympa.
Quand tu vois Netflix là, qui produit du Castlevania, plein de trucs comme ça, ouais, c'est...
Ah bah oui, Netflix entre Witcher, Castlevania, bon Witcher c'est le livre, mais c'est plus le jeu, et puis HBO qui va avoir The Last of Us, enfin il y en a plein quoi, mais bon. Quoi d'autre, justement The Witcher il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X gratuitement, enfin pas gratuitement, mais The Witcher 3 va arriver sur PS5 et Xbox Series X. Ça, c'est le jeu qui commence à être porté partout. C'est comme Diablo 3 et Elder Scrolls 5. Un truc intéressant sur PlayStation, Ratchet & Clank qui va lui aussi avoir un mode 60 images secondes. Ce qui veut dire que, de base, il ne sera pas 60 images secondes. C'est encore un clou dans le cercueil du 4K 60 qu'espéraient les fans du 60 images secondes. Quoi d'autre ? Spellbreak, je ne l'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien le tester. Il est sorti, c'est un Battle Royale avec des sorts. C'est un jeu gratuit, il faut que je le teste, mais il m'avait tapé dans l'œil. Eiyuden Chronicles a réussi son Kickstarter, très bien réussi même. C'est pour les fans de Suikoden. Je ne sais pas si vous avez vu Ultra Kill, mais c'est un jeu, un FPS. Toi, ça te parle, Ultra Kill ?
Ouais, moi, j'avais essayé la démo et je pense que je vais m'acheter l'accès anticipé.
Tu peux le décrire?
Ouais, c'est ce qu'on appelle un fast FPS. Donc, les fast FPS, c'est FPS très, très, où tu passes ton temps à courir, à sauter, à tirer sur des ennemis. Très, très inspiré par Quake en termes de visuel, déjà. C'est un rétro fast FPS. Donc, très inspiré par Quake avec des gros pixels, etc. Et celui-là, en fait, et je trouve ça avec humour, en fait, les développeurs l'appellent Devil May Quake parce que c'est vraiment un FPS qui est basé sur les combos à la Devil May Cry où plus tu tues tes ennemis et tes monstres avec du style, plus tu fais des combos. Donc c'est plus une suite d'arènes, hein, pour le moment. C'est pas un truc avec story, enfin avec une histoire, etc. Mais par contre c'est super, le feeling est vraiment très bon. Moi j'ai trouvé le feeling très très bon au niveau de la quand j'avais essayé la démo, pardon. Donc je pense que je vais prendre l'accès anticipé parce que ça m'a beaucoup plu. Après c'est vraiment très spécial, c'est-à-dire visuellement allez voir à quoi ça ressemble. Visuellement c'est quand même très très très, ça peut être repoussant, hein, si vous n'êtes pas habitué à ce genre
très très rétro, quoi. C'est...
Voilà, par contre, c'est le genre de jeu qui peut te plonger dans une espèce de transe, un peu comme Doom Eternal, tu vois, te plonger dans une transe complètement folle parce que t'étais toujours en alerte et voilà. Ultra Kill, c'est ça, j'ai la passion encore plus poussée, quoi.
Est-ce que t'as essayé ou t'as regardé, c'est quoi, c'est BPM
FPS rythmique, hein, plus ou moins.
C'est ça, exactement, un FPS rythmique qui va bientôt arriver en accès anticipé, qui m'intrigue aussi beaucoup. C'est un FPS où il faut recharger et tirer, ça fait des bruits musicaux et on doit le faire en rythme sur la musique pour faire monter les points.
J'ai pas essayé, mais il y a eu celui-là, il y en a eu un autre qui a été annoncé pendant cet été là, dans le même style, dont j'ai oublié le nom. C'est marrant, c'est le sort de truc qui vient à la mode, le FPS rythmique. Moi je suis plutôt, ouais, je suis curieux d'essayer, hein. C'est rigolo. Après je sais pas si le concept fonctionne longtemps, faut voir.
À voir. C'est pour allier notre amour de la tuerie en série et de la musique. C'est tout à fait, qui vont bien ensemble. Bon, mais le jeu que moi j'attends, et ça va être notre dernière news, c'est un jeu qui vaut tous vos cyberpunk, tous vos Ultra Kill, tous vos Eiyuden Chronicles, tous les Avengers, c'est Densha des Go. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, Densha des Go, sans regarder la news ?
De nom, mais je sais plus ce que c'est. Je connais le nom, mais non, je ne me souviens ce que c'est.
Ni Julie, même pas Julie, je suis déçu.
Ah non, ça veut dire rien du tout.
Alors, Densha des Go, je plaisante, hein. C'est un jeu d'arcade japonais des années, on va dire, 90-2000, où on conduit des trains. C'est un petit peu l'équivalent japonais de Farming Simulator, le truc qu'ils font, que personne d'autre ne comprend, mais qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'on conduit des trains, mais pas genre des trains de course. C'est le métro dans Tokyo. Le métro, enfin le train de la Yamanote qui fait le tour de Tokyo, tu vois. Et c'est modélisé. C'est modélisé aussi fidèlement que possible et tu vas à la vitesse de ton train, quoi. C'est vraiment, enfin, du train normal.
C'est le fast simulator du train, quoi.
Voilà, exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas que tu montes dans un TGV ou dans un Shinkansen. Enfin, tu es sûr qu'il y en a aussi dans certains modèles. Mais le plus populaire, c'est vraiment faire le métro, quoi. Et donc, ça va être refait, une édition 2020 du jeu. C'est une version de la dernière version du truc qui était sortie en 2017 et ça va sortir sur PS4 et VR, donc en réalité virtuelle sur PS4. Je crois qu'il sera sur d'autres plateformes aussi, la Switch notamment. Mais c'est un truc, bon, évidemment, c'est un petit peu une blague, mais je trouvais ça assez, assez drôle. Si vous voulez vous retrouver au Japon, dans la, de la manière la plus triviale qui soit, vous pourrez jouer à Densha Dego en réalité virtuelle.
Ah là là, ça me donne envie d'entendre, ouais. d'entendre les voix qui annoncent les stations. Là, cette voix douce là qui te...
T'imagines une petite partie de Ultra Kill et après sur ta 3080 ouais, ou 3090 s'il sort sur PC en VR, tu pourras te faire du Densha Dego pour te détendre.
Tu sais, je fais une divagation.
Oula, je t'entends plus.
On l'a perdu.
Oh non, il commençait à divaguer et on l'a perdu.
Il a été choqué par le jeu.
C'est ça exactement. Mais bon, on t'a perdu, JK. Eh bien écoute, il va sûrement revenir assez vite. Oui, donc toi, je crois comprendre que Densha Dego, c'est pas forcément ton truc.
Eh bien en fait, pourquoi pas, parce que le métro à Tokyo est pas mal aérien, donc la vie est magnifique. Et puis finalement, entre deux games de LOL, quand on en a un peu marre, pourquoi pas, hein.
Pour se détendre un petit peu, ouais, alors, pourquoi pas. On t'a perdu pendant à peu près 30 secondes, mais on a hâte de savoir quelle divagation tu allais faire.
Contact. Non, je disais que je divaguais, mais je disais que j'avais pas mal joué à Flight Simulator ces dernières semaines, et en fait, j'ai découvert une façon de jouer qui est l'espèce de c'est un jeu, enfin, comment on va dire, c'est de l'ennui, mais c'est de l'ennui agréable, en fait.
C'est comme Avengers, en fait. C'est la même catégorie. Non, je déconne, j'aime beaucoup Avengers.
T'as même pas besoin de toucher le joystick par moment. Une fois que t'es en l'air et t'as ta vitesse de croisière, t'es sur ton écran, tu regardes un peu le paysage. Tu vois, je me suis fait un Tokyo-Osaka en avion la dernière fois, en temps réel, hein, donc à peu près une heure et demie de vol. Et ben, j'étais bien, tu vois, je mangeais mon petit sandwich au boulot tout en admirant les paysages et voilà, et puis je répondais à des mails en même temps, c'est vraiment mais en plus je dis ça sans me moquer, hein. Vraiment c'est une espèce de ça détend, en fait, de jouer à ce genre de jeu, et du coup je découvre une façon zen de profiter de certains jeux, et je trouve que le Flight Simulator pour ça est très fort, quoi.
Écoute, avec ma petite 970, je pense qu'il va pas ressembler à grand chose,
mais là.
C'est là qu'on atteint les limites, tu vois.
Ce sera l'occasion de passer à la nouvelle génération.
Je vais quand même l'installer, on verra. Ça doit être quoi, 200 gigas, c'est rien du tout.
Non, c'est un peu moins quand même, c'est 100 et quelques, 120, ouais. 130, je crois.
Ça va. Ouais. Eh bien écoute, il faudra que je teste ça, parce que... Mais c'est pas trop compliqué, ouais, justement. Dernière question. Non, mais si, c'est ça la question. Est-ce que c'est pas trop compliqué parce que c'est tellement simulé? J'ai toujours l'impression, quand j'en entends parler, que c'est même impossible de décoller, en fait. Il y a un mode plus facile?
Non, c'est complètement faux, parce que justement, alors, en fait, si t'es amateur de simulation, il y a toutes les options qu'il faut pour que ce soit un truc ultra réaliste. Par contre, t'as aussi toutes les options pour que tu sois le plus guidé possible. Il y a des leçons de pilotage, il y en a une dizaine que tu peux faire qui sont très sympas, qui t'apprennent les bases. Et après, franchement, c'est un jeu auquel tu peux jouer au pad, à la cool, avec un Cessna, donc un avion ultra, ultra simple à manier, ultra maniable. Et là, tu prends du plaisir. Et justement, après, ce qui est sympa, c'est commencer à t'intéresser à des choses un peu plus complexes. Je veux dire, moi, j'ai eu des moments d'adrénaline complètement fou au moment où je devais atterrir, où là, je devais gérer moi, tout seul un atterrissage, prendre le bon virage, m'aligner sur la piste, etc. Et là, franchement, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, t'es méga stressé et tout ça, quoi. Donc, j'imagine même pas les fans qui pilotent des A320 pendant 12 heures. C'est vraiment par contre, c'est vraiment hyper abordable pour le commun des mortels. Après, je pense que si tu te contentes de rester tout en facile avec la manette, au bout d'un moment, tu en fais le tour un peu vite une fois que t'as survolé trois pâtés de maison et tout ça. Mais c'est complètement abordable, ouais. Bien sûr.
Bon, écoute, je vais peut-être l'installer. Effectivement, il est dans le Game Pass.
C'est un jeu qui est dans le Game Pass. Voilà, c'est un jeu dans Game Pass. Donc, franchement, si vous avez le Game Pass, vous n'avez rien à perdre à ne serait-ce que le tester, quoi.
Ouais. Bravo à Sobo.
Ouais.
Et bah, Julie, écoute, voilà, Densha Dego et Flight Simulator, ça te fait de quoi te détendre après tes parties endiablées de Ligue.
Mais ça m'a bien tenté, là, ce que tu disais sur Flight Simulator, et je pense que je vais l'installer.
Mais oui. Mais moi, t'as le Game Pass.
Ouais.
Ouais, ben voilà. Moi aussi, je me dis, mais attends, mais ça a l'air cool, en fait. Bon, bah écoute, merci beaucoup, JK. J'allais dire de nous faire dépenser notre argent, mais même pas parce qu'on a déjà le Game Pass. Donc, merci de ce bon conseil. Voilà. Et c'est sur ces bons mots qu'on va terminer cette émission. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on a passé un bon moment tous ensemble et que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, si vous avez une présence à mentionner. Julie, tu peux commencer. Où te retrouve-t-on ?
Alors moi, ça va être très vite, c'est seulement sur Twitter. C'est l'endroit où je suis.
Julie Janiot sur Twitter. On mettra le lien dans les notes de l'émission.
Merci.
Super, merci beaucoup. C'était très très cool de t'avoir, Julie. Merci de t'être prêtée au jeu.
Merci pour l'invitation, c'était très cool.
JK, où est-ce qu'on te retrouve, toi, sur Internet ?
Eh ben moi, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, hein, sur jeuxvideo.com, donc pour des sujets tech hardware, etc. Donc en ce moment, on ne s'ennuie pas entre les cartes graphiques, les consoles, etc. Et puis sur ZQSD, toujours le podcast de jeux PC. Alors, on est un peu en pause estivale depuis un petit moment. Là, on va enregistrer l'émission ce mois-ci. Donc voilà. Et sur Twitter, c'est JK Lauret, JKLAURET.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout. Il y a même notepatrick.com. C'est super simple. C'est un nouveau site qu'on a conçu avec Kevin qui est très, très beau et qui réunit toutes les infos. C'était un challenge de design assez intéressant, mais je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Allez y jeter un coup d'œil parce que vous trouverez bien sûr tous les liens des réseaux sociaux, mais aussi le lien du Discord sur lequel vous pouvez aller discuter dans la partie publique tous les derniers épisodes que je produis, et notamment celui-ci. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire sur Discord. Vous pouvez également soutenir l'émission, comme on le disait tout à l'heure, sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Le lien est également sur notepatrick.com dans le petite partie rendez-vous jeux. Et c'est un super moyen de soutenir un travail que vous appréciez et de nous soutenir pour notre passage hebdomadaire notamment, de manière à ce qu'on puisse vous fournir un résumé sympathique de l'actu toutes les semaines. J'ai dit qu'on était là toutes les semaines. Qu'on puisse vous aider à suivre tout ça sans que vous n'ayez à passer des heures et des heures à écumer tous les blocs de la Terre. Donc, rendez-vous jeu sur Patreon, c'est patreon.com/rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous infiniment de votre écoute. Je remercie encore plus infiniment tous ceux qui soutiennent. Je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine seulement pour le prochain épisode. Je vous ai dit qu'on est passé hebdo.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.